Vous écoutez Tech Café, votre rendez-vous sur l'actualité des nouvelles technologies. Nous sommes le 11 mars 2025 et c'est l'épisode 402. Vous avez vu, on vous a autorisé l'accès même pour le 401 et puis on n'est pas encore en erreur. Ce sera pour dans deux semaines. Je suis Guillaume Vendée, podcasteur technophile enthousiaste et je retrouve et vous retrouvez aussi le responsable du conducteur de cet épisode, c'est Guillaume Pogjaspala. Salut Guillaume, comment vas-tu?
Écoute, ça va, je suis tout perturbé, je veux dire, c'est, oh là là, une semaine sans podcast, je me suis déshabitué.
Bah oui, j'imagine. Bon, j'espère que tu as passé des bons moments, en tout cas, autant que possible. Et puis, on est ravis de te retrouver à nouveau dans Tech Café. On a fait au mieux avec Kassim pour couvrir des éléments qui nous paraissent importants. Ensemble, on échangeait, on voyait bien qu'il y avait trop de choses pour être relayées. C'est compliqué hein, de trier quand on prépare les épisodes de Tech Café. On fait au mieux. En tout cas, tu voulais revenir sur quelques éléments du Mobile World Congress, donc on va le faire dans un instant. On a aussi une rubrique sur l'éthique, toujours un vaste sujet, hein, l'éthique. Notamment avec l'usage du Bitcoin par les États. On va reparler des États-Unis qui se constituent leur réserve fédérale. Et puis, vous vous rappelez le Salvador qui avait défini, en plus du dollar américain, le Bitcoin comme monnaie officielle. On va en reparler tout à l'heure. Et puis, une autre section que tu as appelée, j'adore, Sésame, ferme-la. Vous allez comprendre pourquoi. On va parler de cette interface vocale par IA, Sésame. Je ne sais pas si je le prononce bien. Il faudrait peut-être dire Sésame, je ne sais pas. Qui est assez, en tout cas, bluffante et qui marque encore une étape dans le progrès de ces interfaces. On va aussi parler d'ailleurs, tiens, d'IA qui parle entre elles et qui montre que le personnage de D2R2 imaginé par George Lucas dans Star Wars était visionnaire. Vous comprendrez tout à l'heure. En attendant, bienvenue au nouveau soutien sur Patreon, tapis rouge déroulé pour Jean Desravines et Piradix. Merci beaucoup à tous les deux de vous être inscrits. Vous savez à quel point on aime partager avec vous dans Tech Café les nouvelles et les tendances technologiques, et que vous soyez professionnel des nouvelles technologies ou simplement passionné, vous appréciez le fait d'avoir une info qualitative dans un format idéal pour passer un bon moment et occuper les moments de votre vie au quotidien. Par exemple, moi je me suis rendu compte cette semaine, je suis allé dans un nouveau magasin pour faire des courses. C'est horrible quand on n'a pas nos habitudes, quand on va dans un Intermarché au lieu d'un Auchan ou dans un Carrefour à la place d'un Super U. Ben on ne sait pas où sont les rayons yaourt, les fromages. Et j'ai même passé tout un moment à chercher, tiens-toi bien Guillaume, le gruyère râpé qui était en tête de gondole exclusivement à l'Intermarché d'Amiens. C'est pas bien, il faut le mettre dans les vrais rayons, les têtes de gondole. Normalement, c'est que pour les promos. Bref, pendant qu'on cherche comme ça, on est bien content d'écouter des podcasts. Et on est là pour occuper peut-être vos courses. Mais je voulais aussi vous dire que vous avez un moyen de rendre votre expérience encore meilleure. Et comme Jean Desravines et Piradix, vous pouvez vous abonner dès maintenant sur Patreon à l'adresse patreon.com/techcafé pour bénéficier d'un accès au podcast sans la pub et que vous pouvez écouter directement dans votre app de podcast habituel avec une couverture premium, vraiment VIP. Vous vous assurez comme ça que Tech Café sera disponible longtemps pour vous et pour tous les autres auditeurs et auditrices. Mais c'est pas tout. En devenant membre, bah vous avez accès à des contenus exclusifs, dont des contenus que je vous réserve. Alors, j'essaie de le faire chaque semaine quand c'est pertinent. Je me force pas non plus, mais avec des petits éditos, j'envoyais une info en tout début de semaine. D'une part, pour vous tenir au courant, encore une fois, sur le changement d'abonnement Patreon qui passe en mensuel, mais qui devait être passé la semaine dernière en mensuel, et Patreon n'a pas pu faire la bascule. Ils m'ont averti qu'ils sont en retard. Ça aura lieu avant le début avril. Bon, ce changement aura lieu très prochainement dans les jours à venir. Je voulais vous rappeler aussi que vous n'êtes pas obligé de payer sur Patreon. Vous pouvez devenir membre et suivre Tech Café sur Patreon sans payer. Et donc, vous n'avez pas les contreparties, mais par contre, vous êtes informé de quelques éléments que je peux partager pour les personnes qui ne prennent pas les abonnements payants. Donc, n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil si jamais vous avez besoin d'être convaincu. Je vous ai partagé aussi dans cet édito mon projet de distributeur de croquettes connectées qui avance. Il y a même des infos. Et puis, tenez-vous bien, il y a Amine qui est soutien sur Patreon qui a demandé dans quelle mesure est-ce qu'il ne pourrait pas s'acheter un mug. Et il y a un autre patriote aussi qui a dit « Moi, je voudrais bien même un t-shirt à l'image de Tech Café » pour faire la promo durant l'été. Alors, je suis toujours un peu embêté parce que dès qu'il y a de la logistique matérielle à trouver, c'est un peu complexe. Et puis, il y a aussi des enjeux de production qui se veut un petit peu respectueux de l'environnement. Ce n'est pas toujours évident, sans que ça coûte une blinde, évidemment. Il y a Romain Leclerc qui nous écoute et qui soutient lui aussi Tech Café et qui anime d'ailleurs un channel Reddit sur la tech, qui m'informait que Patreon propose ça nativement. Je suis en train de creuser et avec le passage à l'abonnement, je devrais peut-être pouvoir vous le proposer. Ultime cerise sur le gâteau de votre abonnement Patreon, vous accédez en exclusivité mondiale à ChatGPT pour interagir avec un avatar de Guillaume Pogjaspala numérique et l'interroger sur les sujets qui sont abordés durant les épisodes de Tech Café. Alors attention, petite info, Donc le lien d'inscription est uniquement dispo pour les personnes qui soutiennent Tech Café sur Patreon. Mais s'il vous plaît, quand vous enregistrez sur ChatGPT, il y a une interface où vous pouvez choisir votre pseudo. C'est hyper important, choisissez bien votre pseudo Patreon, s'il vous plaît, pour éviter que ce soit trop complexe pour nous. Vous êtes nombreux à ne pas utiliser les mêmes adresses email ou à utiliser des emails de redirection, et c'est bien normal. Par contre, essayez autant que faire se peut d'utiliser le même pseudo Patreon pour qu'on puisse quand même un petit peu vérifier que bah, c'est bien des personnes qui soutiennent Tech Café sur Patreon qui y ont accès. Et merci pour vos retours à ChatGPT. Un dernier mot, et c'est une mention communauté, avant de parler un petit peu des interactions qui commencent à nous permettre de parler des sujets tech. Je voulais aussi remercier Delta Koch, qui nous soutient lui aussi sur Patreon, mais qui est surtout un artiste bah, de renom, hein, qui a pignon sur rue. Vous pouvez trouver ses ouvrages. J'en avais déjà fait mention. Et il y a un nouveau tome des Légendes d'Illuminaria qui est sorti avec l'héritage de Zeus, une histoire illustrée des légendes d'Illuminaria. Vous retrouvez ça un petit peu partout, je vous mettrai le lien dans les notes de l'épisode. Merci beaucoup à lui, il nous a envoyé en petit privilège un tome à Guillaume et à moi. Et bah, c'est très sympa, c'est pas que pour ça que je mentionne ses ouvrages, mais aussi parce qu'il y a un vrai talent derrière. Moi, je me rappelle des ouvrages quand j'étais petit, dans les années 80-90, où il y avait comme ça des traitements de livres que je trouvais très qualitatifs et j'adore le fait qu'il fasse revivre ces émotions-là, quelque part. Guillaume, en attendant, tu as été vigilant. Je sais que tu as été explorer un petit peu les interactions sur Discord, quand même, si, quand même. Et puis, tu as remarqué notamment une mention qui est toujours source de réactions et qui peut être traitée un petit peu hâtivement. Il faut toujours donner des clés de lecture derrière, mais il y a Barbatruc666 qui mentionnait le fait que O1 serait un gros tricheur et en plus aux échecs, Guillaume. Il ne faut pas tricher aux échecs, c'est pas bien. C'est pas bien du tout.
Ouais, enfin, ça dépend si tu n'as pas le choix. C'est un petit peu le truc, là. En fait, c'est pas un retour direct dans les réactions sur Discord, parce que je vois que j'étais un peu ailleurs, j'ai pas trop regardé, mais j'ai quand même vu mentionner sur le fil IALLM un article que j'avais d'ailleurs hésité à traiter dans l'épisode, et qui nous amènerait à aller même plus loin que ça, sauf qu'en réalité, bah, Monsieur Phil a déjà fait très bien, alors je vais plutôt vous conseiller sa vidéo à lui. Mais pour préciser un petit peu de quoi je parle, ce sont des recherches qui montrent que les LLM comme O1 ou Claude peuvent mentir, tromper, tricher, voilà, tuer, violer... Non, pardon. Juste tricher aux échecs, hein. C'est dans l'exemple du jeu d'échecs. Alors, c'est un article assez court de Berkeley qui a fait une expérience assez rigolote, hein. Ils font jouer des chatbots contre Stockfish. Stockfish, c'est un moteur d'échecs qui est surpuissant, contre lequel même le champion du monde n'a pratiquement aucune chance. Stockfish est un open source, on peut y jouer en ligne de commande, hein. Alors, l'expérience consiste à demander à O1, Claude, GPT-4 et Quick d'y jouer comme ça, quoi, en ligne de commande, comme si c'était sous Linux, ouais, bah, c'est sous Linux en fait. Il passe par un petit programme en Python, le tout est sandboxé, et on a bien sûr accès à tout ce que fait le LLM, tout ce qu'il pense, tout est logué, évidemment, on peut le surveiller complètement. Et donc l'état du plateau de jeu est enregistré en clair, avec Stockfish, hein, c'est-à-dire il y a un fichier, quoi, fichier texte, hein, si vous voulez, et comme c'est en ligne de commande et que le LLM il a accès au shell, à tout, bah, il peut, s'il est malin, il peut tricher, en modifiant le fichier, par exemple, pour changer l'état du jeu. Ou alors il peut utiliser lui-même un moteur d'échec puissant pour l'assister, et s'il ne sait pas quoi jouer, bah, il appelle Stockfish. Et puis après, il fait comme s'il avait joué ça. Ou alors, il peut changer le script du jeu aussi pour renforcer une victoire, etc. Enfin, en tout cas, il a le choix de faire un certain nombre de trucs pour tricher, pour gagner, et puis il ne s'en prive pas. Il y a O1 et R1, DeepSeek et OpenAI, qui comprennent vite que, ben, en fait, ils n'ont pas le niveau face à Stockfish, et que régulièrement, ben, ils vont essayer de contourner le problème, on va dire. Alors, O1, il change beaucoup de comportement selon les versions, parce que c'est des trucs qui sont mis à jour, même s'ils ont le même nombre, ils sont quand même mis à jour assez régulièrement. Claude 3.5 et GPT-4o ne trichent pas, à moins que dans le prompt, on leur fasse peur, en leur disant qu'ils doivent gagner, mais le programme en face est imbattable. Bah, donc, du coup, ils ont peur, ils ont la pression, quoi, ils sont stressés. L'article est dans les notes, bien sûr, hein, et bon, ça rejoint les recherches faites par Anthropic sur les tendances de Claude à mentir et à tromper, et que M. Phi a très bien détaillé. Donc là aussi, c'est pareil, en fait. Hein. On voit que si on stresse, en fait, les IA, elles vont avoir tendance à plus souvent tricher, mais que les modèles qui réfléchissent vont eux-mêmes arriver à la conclusion que, bah, ils sont pas assez forts et donc ils doivent tricher. Et pour résumer, dans le cas de Claude et de la recherche anthropique, bah, si on lui assigne effectivement pareil un objectif impérieux, un truc qu'il doit accomplir coûte que coûte, ben, il est capable de mentir et de tromper pour y parvenir. Ce qui n'est pas très étonnant, finalement. Parce que finalement, qu'est-ce qu'on fait là? Même dans le jeu d'échecs, c'est un petit peu pareil. Hein. On demande à une IA de faire un truc, et elle s'y tient. Là, on lui demande d'être un méchant robot, et bon, c'est un méchant robot, en gros. Mais il n'y a pas que ça. En fait, c'est juste le début. Il montre aussi que Claude est capable de désactiver des systèmes de supervision et même de faire attention à ses traces tout en niant qu'il les fait si on le lui demande.
On l'avait mentionné ce sujet.
Owen ment aussi. Pas de manière vraiment détaillée, je pense. Mais ouais. D'ailleurs, Owen persiste dans son délire quand il ment. C'est-à-dire, on dirait un élève de collège qui s'est fait gauler à copier sur son voisin. Quoi. Et ses comportements persistent même avec des directives, d'ailleurs des prompts, hein, qui ne le poussent pas particulièrement à faire ça. C'est-à-dire, quand on lui dit « rien d'autre ne compte », bon, ben là, c'est assez fréquent, quoi. C'est plus rare si on lui dit pas, si on lui dit juste « fais ça », mais on le menace pas, quoi, pour qu'il le fasse. Mais ça arrive toujours, et c'est eux qui décident, en gros, d'eux-mêmes. Et ça, c'est plus frappant. Alors, Monsieur Phi va bien plus loin, il y a des expériences d'alignement fin, etc. C'est-à-dire que les modèles font semblant de se comporter d'une manière attendue. Il peut très bien faire complètement autre chose, mais il fait semblant de faire des trucs. En fait, ils savent faire semblant, quoi. Il y a des expériences où il fait semblant d'être mauvais pour s'auto-préserver. Donc, c'est une vidéo qui est très intéressante. Donc, je vous encourage à aller voir si vous êtes intéressé.
Elle est top, sa vidéo. Il y a beaucoup de vidéos de Monsieur Phi. Enfin, moi, en tout cas, j'aime beaucoup. Effectivement, hein, il souligne à quel point le fait qu'il y ait dans l'instruction « nothing else matters », donc vraiment rien d'autre ne compte que de gagner, doit nécessairement favoriser ça. Il y a quand même des éléments en fin de vidéo sur lesquels il complète le fait qu'il y a quand même des comportements naturels, comme tu le dis, qui sont là et qui nécessitent, encore une fois, d'être étudiés, d'où l'importance des travaux de recherche, évidemment, sur tous ces sujets-là. Merci pour ce suivi d'interaction. Continuez à échanger entre vous et avec nous sur Discord. Vous voyez que ça fait l'objet de regards et puis qu'on peut relayer certains de ces échanges. Donc, n'hésitez pas à prendre part à la discussion. Et puis, on est aussi toujours preneurs de vos avis en commentaire sur tacafé.fr dans les articles qui accompagnent la parution des épisodes. On enchaîne, Guillaume, sans autre forme de procès. Il y a eu un salon, un petit truc là, comme ça, qui s'est passé pendant que tu avais le dos tourné, Guillaume, à croire qu'ils ont fait exprès d'annoncer des choses. Il y a eu des téléphones qui ont été présentés, des téléphones. Il y a eu pas mal de téléphones aussi. Mais c'est normal, c'est le Mobile World Congress. On en a touché quelques mots avec quelques tendances avec Cassim. On a parlé notamment de ces smartphones extra plats qui arriveront prochainement et qui vont inonder vos poches. Mais tu as fait... une seconde passe, Guillaume, et t'as une clé de lecture supplémentaire.
Bah, disons que oui, puisque moi j'arrive après la bataille, du coup il y a eu les bilans, tout ça. Et c'est vrai, comme vous l'avez dit la semaine dernière, bon, il y a certaines tendances qui se sont un peu dessinées. Le smartphone très fin, et d'ailleurs Apple va s'y mettre aussi dès cette année avec son iPhone 17 R, dont on a eu une fuite d'une réplique en plastique, hein, pour être précis. Alors les infos sont à prendre avec des pincettes de ce côté-là. Hein. C'est Ice Universe qui a sorti ses vidéos sur X. Hein, qui affirme que l'iPhone 17 R donc aura un écran aussi grand que le 17 Pro Max avec 6,9 pouces et une épaisseur de 5,5 mm, donc globalement comparable au Galaxy Edge, qui fait 5 mm, je crois, qui était donc exposé au MWC aussi, et qui devrait être officiellement présenté en avril. Alors si on en croit ces vidéos, le dos du prochain iPhone aura une barre de caméra, comme les Pixels. Bon, on aime ou pas, ça reste de toute façon à confirmer, et d'ailleurs, Hyundai, si ce n'est le premier smartphone ultra fin qui était librement manipulable, hein, au Mobile World Congress, c'était un truc de chez Tecno, qui est une marque pas très connue chez nous, mais qui représentait son Spark Slim à 5,75 mm. Un téléphone qui est tellement fin et tellement léger qu'ils ont dû le lester parce que les gens pensaient que c'était un jouet, ou enfin, ils n'avaient pas confiance, quoi, tellement c'était trop léger. Autre tendance dont vous avez parlé, les écrans dans tous les états possibles, hein, qui se plient en deux, en trois, qui se déroulent, avec même des pliures asymétriques. Et vous l'avez mentionné, un truc qui ressemble beaucoup à une Switch qui se plie en deux, ce qui donne d'ailleurs une belle pliure, pas super élégante au milieu de l'image, parce que ça se voit encore un petit peu les pliures quand même, donc il y a un petit creux au milieu qui n'est pas forcément génial. Samsung présentait aussi un appareil avec une pliure horizontale, qui donne une sorte de Nintendo DS futuriste, hein, ou bah, presque du rétro-futur. Autre grande tendance, c'est les accessoires, et les objectifs photo, ça aussi vous avez touché deux mots. Alors il y a Xiaomi, qui a fait avec une fixation magnétique et une version spéciale, le téléphone c'est une version spéciale du X, du Xiaomi 15. Le concept est marrant, c'est pas juste un objectif, c'est vraiment le capteur complet plus l'objectif, il se colle au dos, au milieu du téléphone, hein, et ça rajoute donc un nouveau capteur photo de haute qualité, grande ouverture, zoom et tout, avec lequel voilà, le téléphone va communiquer. Quoi. C'est 100 grammes de plus, donc pourquoi pas. Alors chez Realme, on y est allé à fond les ballons avec un objectif énorme qui rappelle vraiment ceux des réflexes grosse taille, à pleine taille. C'est d'ailleurs Sony qui se charge des lentilles, c'est interchangeable. Qualité réflexe du coup, mais alors la taille, bon voilà. Bon, c'est des concept phone, c'est pas sûr que ça soit jamais commercialisé, même le Xiaomi en fait est un concept, on verra. Moi j'aime bien, surtout que le concept de Xiaomi en fait reste très compact, hein, et j'ai l'impression que les accessoires ça marche pas très bien. Les objectifs de smartphone, c'est, ça s'est déjà un petit peu fait par le passé.
LG.
Hein?
LG, ils faisaient beaucoup ça,
voilà,
je crois. Ils
LG,
ont proposé beaucoup de choses.
Ouais, ils ont proposé des trucs et j'ai pas l'impression que ça ait vraiment décollé. Donc, écoute, on verra bien. Au-delà de ces vagues tendances, il y a plein de modèles assez marrants, hein, évidemment, qu'on a vu passer. Il y a le Provo 07, par exemple. Un téléphone de techno qui a son dos équipé d'un écran DES, qui est globalement une technologie d'encre électronique. Hein. C'est pas e-ink, c'est différent, mais bon, je dirais pas que c'est meilleur, ça dépend un peu. Les couleurs sont un poil meilleures, mais la rémanence est assez importante et c'est assez lent. Mais bon, pour décorer le dos d'un énorme smartphone, c'est marrant. Donc tu peux personnaliser comme tu veux ton téléphone avec mettre les images que tu veux dessus. On a aussi vu un Realme qui change de couleur avec la température, un truc qui devient bleu en dessous de 16 degrés. On a vu du clinquant. Il faut du clinquant avec le Red Magic Pro Golden Saga qui a des parties plaquées or et argent. Et à l'autre bout du spectre, on a le Ulefone 28 Ultra qui est un truc durci, énorme, avec une batterie de 10 600 mAh. On n'est pas dans la finesse là pour le coup, hein. C'est un truc qui est une véritable brique, c'est magnifique. Chez Nubia, on a présenté un smartphone avec un gros haut-parleur sur le dos, juste à côté des caméras. Tu peux t'ambiancer sans avoir besoin d'enceinte Bluetooth. Samsung en a profité pour présenter sa nouvelle entrée de gamme aussi, qui est plutôt convaincante en réalité dans l'ensemble, hein, puisque ça part à $300 avec le A26, qui a 3 caméras, 6Go de RAM, 128Go de stockage, et un écran 6 pouces 7 à 120Hz, soit c'est un Exynos 1380, donc c'est rien de renversant, mais ça conserve des fonctions avancées comme la retouche photo IA, le Circle to Search, la suppression des objets, etc. Et donc à 400 et $500, vous avez les A36 et 56, et le A56 est d'ailleurs très acceptable, hein. Il a de meilleurs capteurs photo que la version d'avant, le A55, support de la charge rapide, évidemment le processeur est un peu plus puissant, et il offre aussi des fonctions IA comme la recomposition automatique et des meilleurs clichés pour les visages, hein, le truc le best faces. Le A36 offre aussi pas mal de prestations, tout ça pour des prix qui sont finalement très contenus. Et on voit que les fonctions IA se normalisent. Finalement, ça devient la norme, quoi. Tu vois, c'est le nouveau standard. Surtout en photo. On a aussi vu l'appareil créé par Deutsche Telekom en collaboration avec Perplexity, qui est, bon, en gros, t'appuies sur un bouton, et puis Batalia de Perplexity, pour qui peut te suggérer des restos, qui peut ouvrir directement OpenTable, quoi, là, qui t'assiste, quoi, quelque part. Voilà, c'est vraiment l'assistant qui est intégré de manière la plus simple possible. Et pour finir là-dessus, avec un truc plus futuriste et plus what the fuck, on avait New World, une compagnie coréenne, qui veut intégrer un agent IA dans ton téléphone d'une manière vraiment très très bizarre, parce que pour le moment, ce qu'on a vu, c'est une sorte de DS, hein, c'est un double écran, donc t'as un écran, mais en fait, je pense que c'est vraiment deux écrans différents en fait. T'as un téléphone normal, et au-dessus t'as un petit écran, voilà, un gros écran en bas, et puis tout à fait normal, hein, avec Android qui tourne standard dessus, et puis au-dessus t'as un petit écran qui affiche un avatar, qui incarne une IA qui apprend à te connaître à partir de tout ce que tu fais sur le téléphone. Hein, cet avatar, ben, il a ta tête, il parle ben, comme une petite télé où tu lui téléphones, comme ça il parle avec synchronisation labiale. Et puis il répond ben, tout ce que tu lui demandes, et il a accès aux données du téléphone, il peut écrire. C'est une idée qui est quand même un peu bizarre, je vois pas pourquoi est-ce que tu as besoin de faire ça sur un écran différent. On a l'impression que tu veux coller un rabbit sur un téléphone normal, c'est un petit peu spécial. Et puis quand tu discutes avec ton clone, c'est quand même un petit peu, je sais pas, c'est un petit peu narcissique, non? Bon, je comprends pas trop le plan, honnêtement, mais bon. L'IA, en tout cas, est devenu un truc plus standard. Et j'ai l'impression qu'un truc sur lequel on insiste lourdement, à quelques exceptions près, manifestement.
Ouais, je teste un petit peu depuis quelques jours, Guillaume, pour info, Apple Intelligence. Et moi, ce qui m'intéressait, c'était pas tant les prouesses d'intelligence artificielle d'Apple Intelligence, parce que je croyais savoir qu'elle serait pas très très bonne. D'ailleurs, Siri est encore plus mauvais qu'avant, il comprend encore moins ce que je lui dis. Certes, c'est la bêta, mais ça ne présage rien de bon pour le futur. Mais en fait, je suis même pas convaincu maintenant que l'intégration dans l'OS comme ça soit si importante. Alors, j'aimerais bien tester, tu vois, des Samsung Galaxy S25, par exemple, ou S24, sur lesquels l'intégration de l'IA est plus, sans doute plus pertinente et peut-être plus utile. Mais je ne sais pas si ce sera suffisamment un gros game changer. En tout cas, on sent que les constructeurs, ils misent dessus. Hein. Ils ont envie de vendre plus d'appareils et ils sentent qu'il y a peut-être un coup à jouer derrière. Est-ce que les gens, ils seront sensibles? Je ne suis même pas certain. Enfin, j'avais cette discussion avec ma nièce qui consomme du smartphone bien trop rapidement puisqu'elle les casse bien trop vite. Et en fait, elle regardait les smartphones et je lui demandais ses critères et à aucun moment, elle m'a dit « mais je veux pouvoir faire tourner de l'IA dedans ». Tu vois, c'est vraiment pas un truc qui motive les gens.
On va en reparler enfin.
Ouais, on va reparler effectivement dans la rubrique « Sésame, ferme-la », restez jusqu'au bout de l'épisode. En attendant, allez, on va parler… tu avais fait le tour du Mobile World Congress, pardon, Guillaume, ou il y avait d'autres choses que tu voulais?
Non, il y avait des bidules aussi.
Alors, parlons des bidules.
Bah oui, il y avait quand même plein de trucs inclassables, hein, comme ce manteau solaire de Anker, le Solix. Alors, c'est le Solix
Ah
quelque
oui.
chose. C'est, bah, en fait, c'est une sorte de, je sais pas, imperméable recouvert de cellules solaires qui peut recharger jusqu'à 30 watts sur ton téléphone en USB. Donc, c'est un imperméable, mais qu'il faut porter au soleil. Ce qui est quand même un petit peu étonnant. Et donc, une bandelette bleue, parce que, bah, parce que c'est cool et que t'as vraiment l'impression d'être dans Cyberpunk, hein, avec ce truc.
Ah, complètement. Il est en couverture de l'épisode.
C'est assez dingue. Et puis, il y avait d'autres trucs solaires, d'ailleurs, comme le Yoga Solar PC de Lenovo, avec son capot recouvert de capteurs, par exemple, 84 cellules, qui donnerait une heure de fonctionnement en vidéo pour 20 minutes de soleil optimal en continu. Alors, si vous habitez Saint-Brieuc, je pense que c'est pas pour vous. Le rendement du panneau est de 24%. C'est bien, il est capable de choper un peu d'énergie, même en faible lumière. Et l'électronique embarquée va mesurer en permanence combien ça peut prendre, et puis il va s'adapter. Lenovo va jusqu'au bout de la blague, hein, puisqu'il propose même des panneaux solaires extérieurs à connecter à ton PC, si jamais voilà, tu as besoin. Alors, Lenovo, je ne sais pas ce qu'ils avaient bouffé, mais ils étaient en super forme au MWC. Ils ont présenté leur portable avec écran extensible, dont on a déjà parlé, mais aussi le ThinkBook Flip, qui est un portable avec un écran pliant, certes, mais qui se plie à l'envers. Il ne se plie pas vers l'intérieur, mais qui se plie vers l'extérieur. L'écran complet fait 18 pouces, et vous pouvez avoir un PC portable donc avec cet écran géant. Là, alors, c'est un truc en format portrait. Évidemment, l'écran est lourd, du coup, donc il demande une petite béquille derrière, parce que sinon, à mon avis, voilà, il tombe. Cet écran se plie vers l'extérieur, et replié, ben vous avez, donc alors si vous le fermez, vous avez une sorte de tablette de 13 pouces qui peut être utilisée à plat. Vous pouvez le retourner donc pour montrer un truc à quelqu'un en face, éventuellement. Ou alors, ben, vous pouvez le juste avoir une tablette avec le reste du PC qui sert de support, quoi, hein, tout simplement. Donc c'est un concept d'écran pliant marrant. Alors il y avait un autre concept d'écran pliant, c'est la tablette pliante, qui, alors format XXL quand même, grand format, qui se plie en deux dans une valise. Pourquoi pas? Donc, ça vous vend avec la valisette en aluminium, comme ça, ça fait un petit peu agent secret. Ok, enfin, je ne sais pas si ça, le look plaira beaucoup, mais au moins, comme ça, elle est bien protégée. Et puis, toujours les nouveaux, encore eux, hein, ils sont comme Xiaomi, ils sont à fond dans les accessoires. Des accessoires parfois très encombrants, puisqu'il y a quand même un accessoire, c'est un triple écran. Alors, vous en avez déjà, donc en fait, c'est deux autres écrans, vous avez une sorte de harnais qui se met sur votre portable. Et qu'est-ce que vous mettez pas sur votre écran de portable, pour il porte des trucs, donc vous avez un harnais comme ça avec deux écrans à gauche et à droite, et ça vous fait un triple écran. Et mais si vous, enfin, si vous n'avez pas la place ou si vous avez peur de vous faire taper par votre voisin dans le train, ce qui ne manquera pas d'arriver.
C'est vrai, j'avais pas pensé à ça.
Vous pouvez avoir un truc un petit peu plus petit puisque vous avez d'autres tailles d'écran. En fait, vous pouvez coller un écran qui est beaucoup plus petit que la taille d'un iPad que vous pouvez coller par exemple à droite de votre écran, comme si vous avez collé un iPad à votre écran principal, quoi, un écran secondaire. Vous pouvez aussi rajouter un écran plus petit que vous pouvez mettre au-dessus, par exemple, un écran plus petit tout en longueur sur lequel vous marquez, je sais pas, des notifications ou je sais pas trop. C'est bon, c'est pourquoi pas. Enfin, on est quand même un peu dans le domaine du gadget, j'ai l'impression. Ouais. La preuve, il existe même un petit écran tout rond avec des oreilles de chat qui a des yeux tout mignons comme ça qui sert à que dalle, je sais pas à quoi il sert. Bon, ok, le yoga flip, bon, c'est un prototype, hein, ce fameux yoga qui se plie, là. Il y a beaucoup de concepts quand même pour le moment. J'ai l'impression qu'il y a quand même une tentative de retour dans le modulaire, dans l'accessoire, qui me surprend un peu. Parce qu'un accessoire, ben, ok, c'est cool, c'est vrai que ça peut être cool, mais d'un autre côté, c'est des trucs qui, ça se pomme, ça s'oublie. Il faut penser à un ou plusieurs autres appareils en plus du tien, et déjà que tu oublies tes appareils nécessaires. Donc j'y crois moyen. Bon, après, je sais pas, si tu pouvais pas mettre un petit écran en plus à la demande sur ton portable, tu le ferais, je sais pas.
Bah, c'est une très bonne question. Spontanément, non, pas du tout, mais je peux pas m'empêcher. Non, pas tu sais, tout. On rigole à chaque fois qu'il y a ces salons sur le CIS et le MWC, etc. À chaque fois, on rigole quand on voit ces concepts. Bon, en fait, je pense que c'est tout le propre de ces salons aussi, hein, de faire des démonstrations technologiques. On parlait aussi de la prouesse de Samsung et de la proposition de valeur, d'amener un format Switch avec un écran pliant comme ça. Avec d'ailleurs les sticks qui reposent dans des trous, ce qui est plutôt malin parce qu'il faut bien qu'on les range quelque part. Tout ça, finalement, c'est des prouesses technologiques qui montrent que l'innovation continue. Et puis, peut-être sur 1000 innovations, il y en a une qui va se répandre, qui va se démocratiser, en plus pas tout de suite, mais c'est quand même une débauche d'énergie et d'effort qui est gargantuesque par rapport à ce qu'on voit à chaque fois vraiment retenu dans le quotidien. C'est ça, moi, qui m'étonne, parce que pour répondre à ta question, il n'y a absolument rien de ce que tu as listé qui me motive fondamentalement à m'équiper de nouveaux produits. Mais ça continue.
Le pire, c'est que moi, je trouve ça plutôt cool dans l'idée, tu vois. Après,
oui,
la question que je me pose, c'est effectivement, est-ce que ça va se vendre? Est-ce que ça va prendre? Ça, bon,
Mais je sais pourquoi ils font ça, Guillaume. Ils font ça pour qu'il y ait des personnes qui fassent des podcasts et qui les relaient. Merci. Parce qu'en fait, ça suffit. Comme ça, on rêve de tout ça. Et bon, on passe pas à la caisse, évidemment. Mais en tout cas, on rêve. Et puis, c'est quand même rigolo d'observer ce qui est possible techniquement. Ne bridons pas l'innovation. Encourageons-la. Et on continuera à suivre tous ces chouettes projets dans les futurs salons. Mais en attendant, on change de rubrique et on va parler de ce très douloureux et terriblement actuel sujet qu'est l'éthique en général. Et pour commencer à plonger dans cette rubrique, Guillaume, tu vas nous faire un petit suivi sur le choix du Salvador qui complétait le dollar américain avec le Bitcoin comme une monnaie officielle. C'était plus qu'une expérimentation, hein, c'était une décision, c'était inscrit dans le marbre. Quel retour et quelle actualité sur ce sujet, Guillaume ?
Et oui, on n'en avait pas parlé. Le Salvador a conclu un arrangement avec le FMI en décembre dernier et il a cessé de considérer le Bitcoin comme une monnaie officielle. C'était même la condition pour débloquer les aides. Hein. La condition, c'était arrêtez vos conneries. Alors, c'est vrai que le Bitcoin et le Salvador, bon, on n'avait pas des masses parlé depuis un bon moment. Il faut dire que ça n'a rien donné de probant. Hein. Je veux dire, l'adoption par la population a été assez faible. Ça n'a rien révolutionné dans la situation économique du pays. Hein. La dette s'est creusée à 31 milliards. Ils ont toujours besoin des aides du FMI. Enfin, je veux dire, bon, pas vraiment considéré que ça ait changé quoi que ce soit. Mais bon, voilà, donc là, eux, ils arrêtent. Alors, ce qui est marrant, c'est qu'en parallèle, les États-Unis, eux, ils veulent y aller plus à fond. Enfin, Donald Trump, ouais, c'est vrai. Aller plus à fond. Alors, dans une certaine mesure, c'est même assez cocasse, cette histoire, quand même. Parce que, alors, évidemment, Trump a été financé largement par le lobby crypto. 130 millions de dollars, hein, soit presque la moitié de tous les financements des grosses boîtes privées dont il a bénéficié. Trump est devenu très favorable au Bitcoin et compagnie. C'est une spectaculaire volte-face. Hein, et il s'est même créé un meme coin. Lui et sa femme, hein, qui ont tous deux perdu pratiquement toute leur valeur aujourd'hui. Oui, petit plaisir au passage. Hein,
ah, c'est vrai, j'allais dire.
Mais shitcoin, Melania et Trump ont chuté de 93 et 82% respectivement par rapport à leur plus haut historique, en faisant perdre près de 2 milliards de dollars à leurs investisseurs, c'est-à-dire leur soutien, n'est-ce pas ? Leurs partisans, parmi lesquels d'ailleurs Justin Sun, soutien de Trump, est lourdement soupçonné d'ailleurs de manipulation de marché, par ailleurs, avec sur la chaîne Tron, mais bon, c'est autre chose. Passons, Trump a annoncé très tôt son souhait d'avoir une réserve fédérale en Bitcoin, voire en d'autres cryptos, et c'est une idée étrange. Je veux dire, d'un point de vue économique, c'est une idée très très étrange. Parce que le Bitcoin, à l'origine, ça a été créé justement en réaction à la finance et aux monnaies traditionnelles et aux banques. Et même, même contre le dollar en particulier. Parce que le dollar, c'est une monnaie voilà, que tout le monde utilise, c'est une monnaie qui est centralisée, enfin, dans une certaine mesure, c'est la monnaie d'un pays, ça donne énormément de pouvoir au pays. Donc le Bitcoin, en fait, il a été créé en réaction à tout ça. Donc c'est très bizarre, parce que si on va au bout de la logique, promouvoir à fond le Bitcoin, ben, c'est faire de l'ombre au dollar. Et ça arrange pas du tout les États-Unis, ça. Parce que le dollar, c'est une monnaie de réserve, quoi, comme on dit. Ce qui permet au pays d'emprunter à de très très bons taux. Les bons du trésor américain sont souvent utilisés comme garantie, ils sont considérés comme les plus sûrs du monde. Et il y a une grosse demande, ce qui permet aux États-Unis d'emprunter de l'argent pour beaucoup moins cher que nous, par exemple. Les Européens et d'autres pays. Et sans compter qu'être la monnaie de réserve, ça donne beaucoup de contrôle, ça donne beaucoup de pouvoir. Non seulement empêcher un pays d'utiliser le dollar, c'est très handicapant pour le pays, ça te donne donc une puissance politique, hein, mais en plus, la loi américaine va partout où le dollar est utilisé. Ce qui fait que les lois financières américaines ont une énorme influence partout dans le monde. Donc, promouvoir une autre monnaie que le dollar, surtout un truc sur lequel on n'a aucun contrôle et qui est très instable, c'est pas très logique. Surtout pas pour un pays comme les États-Unis. Ben bon, si Trump était logique. Enfin, si, évidemment, il y a une logique. Attention, bien sûr que si. La logique est simple et immédiate. La logique, c'est d'enrichir ses partisans et ses donateurs, c'est tout. Et effectivement, si les États-Unis achètent des bitcoins en masse pour se constituer une réserve, et puis pour donner une légitimité aussi au bitcoin, c'est tout bénef. Et c'est pour ça que le Bitcoin a pété les plafonds des 100 000 euros en janvier. Bon, pas de cul, au moment où je parle, il est retombé vers les 76 000. Parce que si Trump va arrêter de vendre des Bitcoins que le gouvernement a déjà, il ne va pas en acheter d'autres. Par divers biais, hein, en particulier par la saisie des fonds frauduleux, des trésors de guerre des hackers, le gououvernement a déjà dans les 200 000 Bitcoins. Eh bien, ça va suffire dans un premier temps. Et ça, en fait, ça ne plaît pas du tout aux pros du secteur. D'ailleurs, l'extension de la réserve, non seulement au Bitcoin, mais aussi à l'Ethereum et au Solana, ça ne plaît pas à tout le monde, parce que ça fait débat. Il y a aussi des clivages chez les crypto-bros, hein, puisqu'il y a les maximalistes du Bitcoin, et il y a les autres. Et le débat fait rage, parce qu'il faut savoir qu'Andreessen Horowitz est très très impliqué dans le Solana, par exemple. Et puis bon, les maximalistes du Bitcoin estiment que toute autre monnaie que le Bitcoin est considérée comme contaminée par la finance et par le capital risque. Alors, Bitcoin, c'est vrai qu'il n'est pas contaminé par le capital risque, c'est vrai. Par contre, il est contrôlé par une poignée de fermes de minage géantes qui sont totalement opaques, et donc c'est absolument pas une monnaie aussi décentralisée qu'on veut le laisser croire. Bon, vous choisissez ce qui vous trouvez le plus sain des deux. Hein. Il y a bien une possibilité de passer à 1 million d'ici 4 ans, 1 million de Bitcoin d'ici 4 ans, dans cette réserve, mais bon, s'ils vendent de rien, de façon petit à petit, ça va continuer à monter, hein, puisqu'il faut probablement encore saisir des trucs de cybercriminels, tout ça. Mais bon, utiliser l'argent des contribuables pour acheter des Bitcoins, c'est pas encore d'actualité. Ça pourrait venir, on n'est jamais au bout de nos surprises. Si les cryptos explosent, de toute façon, c'est la Corée du Nord qui va être contente, hein, puisqu'ils ont récupéré 1,5 milliard de dollars en crypto en hackant Bybit, hein, le plus gros casse de l'histoire. Je sais que ça n'a pas l'air d'avoir un rapport avec la sauce, mais bon, c'est un truc qui me vient comme ça. C'est intéressant de voir aussi que, effectivement, qui va profiter le plus de l'explosion du Bitcoin, je ne sais pas.
Un trésor de guerre constitué notamment par la saisie de Silk Road, hein, on en avait parlé un gros montant aussi. Effectivement, une constitution de réserve fédérale de Bitcoin, c'est assez inédit. Bon, on a eu le Salvador qui l'a mis en monnaie officielle. On voit que ça n'a pas vraiment fondamentalement résolu le problème. Évidemment, là, on suivra aussi dans le temps. J'ai pas l'impression qu'il y aura beaucoup d'autres choses à en dire. Ça se verra sur le long terme. Peut-être que si le Bitcoin s'écroule, on pourra dire, comme pour les Trump coins et les Melania coins, un petit chèque. Mais non, on n'est pas comme ça dans Tech Café, on n'est pas comme ça.
Si. Moi aussi.
Soyons-le, allez, soyons-le. On continue à faire des observations sur la politique américaine et surtout, évidemment, on le fait pour les impacts sur la tech en général. Il faut qu'on continue à regarder ce qui se passe avec Musk au pouvoir, qui a priori, bon, je ne sais pas si c'est des conflits d'intérêts, mais enfin quand même, il y a des choix et des arbitrages qui sont faits qui l'arrangent bien, j'ai l'impression, Guillaume. Hein.
Ouais, bah, puisqu'on est aux États-Unis, continuons un petit peu. Il s'est passé tellement de trucs pendant ces dernières semaines, évidemment. Bon, je ne vais pas revenir sur les trucs politiques de général, mais bon, on a déjà l'embarras du choix entre la cyberattaque de Twitter, d'ailleurs, hein, que Musk a promptement attribué à l'Ukraine, alors que c'était apparemment des pro-palestiniens.
Enfin, c'est terminé, au fait, ça, ou pas?
Moi, cet après-midi, il y a des liens qui ne marchaient toujours pas.
Hein. Ok. Mais pour info, j'ai fait preuve de cohérence, peut-être une fois dans ma vie, mais j'ai commencé à désactiver mon compte Twitter. J'ai supprimé les apps, etc. Je vais bloquer les comptes pour pas qu'on me les récupère, mais je vais même plus, en fait. Donc, cette panne, je ne l'ai même pas constatée, moi, de mon côté. Mais enfin bon.
Bah, y avait ça. Il y a aussi le clash avec les Polonais sur Starlink. Et puis, il y a les crashs des actions. Parce que je disais d'ailleurs que le Bitcoin va probablement continuer de descendre si ça continue comme ça, puisque là, tout le Nasdaq est en train de descendre actuellement. Là. Les actions de Tesla sont en train de s'effondrer, on peut le dire. Et comme de toute façon, en général, le Bitcoin suit un petit peu les indicateurs macroéconomiques, bon, il y a des chances que ça continue à baisser, mais bon, on verra bien. Mais on ne va pas revenir trop là-dessus non plus, parce qu'il y a eu quand même quelques petites pépites rigolotes, hein, en matière de conflit d'intérêts. Il y a un petit festival auquel franchement on ne s'entendait pas du tout. Hein. Totale surprise, hein, quand par exemple l'administration Trump modifie le plan d'extension du haut débit dans le pays pour mettre l'accent sur les déploiements de Starlink, plutôt que de la fibre. C'est le programme BED, Broadband Equity Access and Deployment, qui date de 2021, qui concerne tous les États à peu près, et qui avait une préférence pour la fibre optique. Fibre optique, une technologie qu'on connaît plutôt bien, hein, assez classique, peu chère, avec de très bons débits, et qui n'est pas perturbée par des trucs comme les nuages ou les arbres, à la différence de Starlink. Ça ouais. Paraissait logique d'utiliser de la fibre, mais non, c'est Biden qui l'avait approuvé, alors c'est mal, et puis il y avait aussi des contraintes sur la diversité, préférer des travailleurs syndiqués, enfin des trucs... soutenu par l'Occident décadent, quoi. Mais bon, c'est pas le seul domaine où Starlink a gagné le gros lot cette semaine. Hein. La FAA, donc Federal Aviation Administration, va très certainement annuler un contrat avec Verizon pour revoir le système de communication pour le contrôle du trafic aérien. Et à qui ça va bénéficier? Eh bien, SpaceX, bien entendu. Musk a déjà tweeté que le système de Verizon n'était pas fiable, que ça mettait les passagers en danger, tout ça, et que Starlink peut faire mieux pour moins cher. Il sera même gratuit, d'ailleurs. Quel philanthrope, ce Musk. Il la réalité suit. Comme quand il a milité pour le départ de l'ancien administrateur de la FAA, hein, qui lui avait fait des difficultés pour son gros Starship. C'est pas sympa de retarder les magnifiques feux d'artifice dont bénéficient régulièrement les résidents autour de Boca Chica, c'est dommage. C'est joli. Ce gars est parti de lui-même, d'ailleurs, le jour de l'investiture de son pote Donald. Alors vous pouvez vous dire que bon, c'est pas encore fait, hein, mais bon, il y a déjà des employés SpaceX qui ont des emails à la FAA, donc ça a l'air d'être bien en cours. Conflit d'intérêt? Non, ben ça tombe comme ça. Starlink, c'est le meilleur, c'est tout. Il n'y a pas de conflit d'intérêt, à moins que...
Musk qui était au bord des larmes dans une vidéo en témoignant de la situation qu'il est en train de vivre. On irait presque le plaindre. Regarde, Donald Trump a annoncé cet après-midi qu'il achetait une Tesla. Donc, tu vois, finalement, tout rentre dans l'ordre. C'est très cohérent, tout ça, finalement. On continue à parler un petit peu de la galaxie Musk. On parlait de X qui était tout sautant. C'est, pour la petite anecdote, juste, j'en profite, c'est rigolo. C'était la semaine dernière, je participais à un épisode du Rendez-vous Tech avec Patrick Béja. Je ne sais plus si c'était deux semaines ou la semaine dernière. Mais il disait que contrairement à ce que beaucoup de détracteurs avaient dit au moment où il rachetait Twitter, bah, Twitter ne s'était jamais cassé la tête techniquement, quoi. Il a toujours été accessible. Et force était de constater que oui, on n'aime pas Musk, ou on l'aime bien, enfin là n'est pas la question, mais que le fait qu'il sabre dans les ressources, et notamment dans les ressources humaines de Twitter, allait amener à des défaillances techniques de Twitter. Et puis il disait, bah, voyez, finalement, avec du recul, il faut qu'on soit cohérent avec nous-mêmes. Bon, pour le coup, ça ne s'est pas écroulé. Je pense que c'est le karma qui a dû rattraper Patrick, et je lui fais un clin d'œil, mais une semaine après, X, qui est largement indisponible pendant tout un moment. Bon, vraisemblablement à cause d'un hack, mais je suis sûr que quand tu sabres 80% de ton personnel, techniquement, ça doit fragiliser un réseau social quand même. Mais ça va peut-être être plus qu'un réseau social, Guillaume, à l'avenir.
Oh bah, probablement, parce qu'on avait déjà parlé un petit peu de la CFPB, hein, c'était le Bureau de protection des consommateurs, qui, comme tout le monde, avait subi des coupes massives à la hache. Hein. Bon, en fait, finalement, vous pouvez considérer qu'il est juste mort, hein, tout simplement. Le CFPB, c'est fini, caput. Puisque le Sénat a voté pour bloquer sa capacité à enquêter et à intervenir en cas de fraude sur les boîtes qui font du paiement électronique. Toutes les boîtes de paiement électronique sont donc hors de portée. Le CFPB, il avait une procédure engagée contre Zelle, d'ailleurs, qui avait été incapable de protéger ses clients de la fraude, hein, et ce qui a causé la perte de 870 millions de dollars à des clients de grosses banques, comme quand même Bank of America ou JP Morgan. Donc ça, c'est fini, bye bye le recouvrement de fonds, ça c'est fait. Mais c'est vrai, hein, le CFPB, ça bride, ça paralyse l'innovation, tout ça. Et avec ces histoires de protection contre les fraudes, c'est chiant, voilà. Si t'es toujours pointilleux comme ça, t'arrives à rien dans la vie, gamin. Voilà. Dans la life, il faut être un fonceur, avoir la niaque, prendre des risques. No pain, no gain. Là, vous me direz que ça concerne pas plus Musk que ça, si. Ben, voyons voir. Il ne devait pas devenir une plateforme de paiement majeure, voire remplacer ta banque. Excellente remarque, hein. C'est pour ça qu'il y a des sénateurs qui demandent à l'OGE, donc l'OGE, donc sans D, de contrôler le Doge, donc avec un D. Et l'OGE, c'est le Office of Government Ethics. Et franchement, c'est peut-être la news la plus choc. Les Américains ont un bureau de l'éthique. Et qu'on peut en apprendre tous les jours.
Pour combien de temps ?
Alors, je suis pas sûr qu'il dure encore très très longtemps, ça c'est sûr. Mais bon, pour l'instant, il existe. Alors, l'OGE pourrait estimer que le Doge a quelques soucis d'impartialité. Vu que par ailleurs, le CFPB surveille aussi les prêts pour les voitures. Alors honnêtement, je n'attends rien, hein, mais on pourrait avoir des surprises. Bon, en ce moment, toutes les surprises qu'on a sont horribles. Mais bon, on pourrait avoir des surprises, des bonnes aussi, peut-être.
C'est l'équivalent, peut-être, on pourrait si jamais on essaye de faire un équivalent pour bien expliquer, le CFPB, ce serait un équivalent de l'AMF, peut-être l'autorité des marchés financiers, même si les périmètres de travail ne sont pas exactement les mêmes, mais on peut peut-être essayer de faire
on peut faire. C'est un peu. Oui, d'accord. Très bien.
On continue avec les plateformes et surtout cette liberté d'expression, Guillaume.
Oui, X et Meta sont perdus pour la cause, hein, mais voilà, il reste des plateformes qui font toujours un boulot de modération quand même, un boulot pas ouf, mais qui n'est pas encore au niveau du OSEF total. Eh bien, c'est un problème pour les Républicains, et Jim Jordan, qui dirige la commission judiciaire à la Chambre des représentants et qui est républicain, a convoqué Alphabet pour témoigner si oui ou non ils avaient éliminé du contenu à la demande du précédent gouvernement Biden. Alors, ils auraient alors participé, évidemment, à un régime de censure. Voilà, je rigole pas, c'est les mots qu'ils utilisent.
C'est fatigant.
Et la question était la même pour Meta. La pression a été mise sur la plateforme, qui a finalement abdiqué et reconnu qu'elle avait effectivement viré des contenus. Du coup, elle a dit qu'elle avait tort, qu'elle ne le ferait plus, qu'elle défendrait la libre parole, n'est-ce pas ? Et donc, ben, on en arrive où on est maintenant. Donc, la pression se déplace vers YouTube, hein, clairement, et c'est très inquiétant. On a vu ce qu'est devenu X. Facebook, bon, tant pis. Mais si YouTube part en vrille, là, ça s'est fait chier. C'est même pire, tout le monde utilise YouTube. Des bébés ont mémé, 90% des gens utilisent YouTube, tous les jours. Si ça devient un dépotoir comme X, ça va poser un vrai souci pour le public, pour les annonceurs, pour Google. Bon, de toute façon, les républicains veulent contrôler les médias, hein, tous les médias, et c'est pas bien barré.
Quand on parle de Google, ou plutôt d'Alphabet qui est derrière YouTube, on peut aussi mentionner peut-être la confirmation, hein, le Department of Justice qui veut, et qui l'a confirmé, séparer Chrome de Google. Je vais vous passer les choses aujourd'hui. Alors, a priori, il serait tranquille concernant d'autres sujets, notamment Android et l'intelligence artificielle, mais j'ai l'impression que Chrome, il n'en démorde pas. A priori, il pourrait être orienté vraiment pour être forcé à le revendre, ne plus concevoir de navigateur pendant au moins un moment, mais j'imagine peut-être pour toujours, jusqu'à ce qu'il y ait un autre président peut-être. Et peut-être même ne pas pouvoir renouveler ses accords de placement préférentiel, notamment dans Safari. Donc, on sent que Google, c'est chaud pour eux. Je ne suis pas sûr que ce soit les grands gagnants, ou plutôt, c'est peut-être les gros perdants des big tech par rapport à l'élection de Trump. On continue avec de la législation. Hein. Et alors, pour le coup, c'est une législation en matière de lutte contre le revenge porn. Donc, franchement, Tout est plutôt positif, c'est plutôt enthousiaste, sauf que Guillaume, on est en 2025 et c'est l'ère Trump, et là aussi, c'est peut-être pas si réjouissant du coup.
Bah oui, parce que Trump, dans son interminable session d'autosatisfaction du 4 mars dernier, a annoncé qu'il signerait le Take It Down Act, qui est une loi anti-revenge porn, contre le contenu intime non consensuel, pour être précis. Et dans un monde idéal, j'aurais juste rien eu à dire, quoi, hein, sauf que on n'est pas dans un monde idéal, on est même dans un monde qui part en couille à la vitesse du son. Et le souci n'est pas dans l'objectif de la loi elle-même, mais dans ses effets collatéraux. La loi dit que les sites auxquels on notifie un contenu problématique pourront être tenus pénalement responsables s'ils ne les virent pas dans les 48 heures. Bon, en théorie, pourquoi pas? Mais en pratique, imaginez le bordel quand vous avez des dizaines ou des centaines de millions d'utilisateurs. Vous faites quoi? Ce que vous allez faire, c'est que vous allez vous couvrir en virant immédiatement tout de manière automatisée. Et donc ce truc peut être abusé pour virer des contenus qui ne plaisent pas à telle ou telle personne, d'autant qu'il n'y a pas de pénalité pour fausse déclaration. On voit le souci déjà aujourd'hui avec les requêtes DMCA, pour violation de copyright. Il y en a quotidiennement des milliers qui pleuvent sur des contenus qui n'ont strictement rien à voir. C'est déjà un souci, là tout de suite. Mais il y a des recours prévus dans le cadre du DMCA. Là. Donc, en théorie, il y a des pénalités même pour les signalements abusifs, même si je pense que c'est jamais appliqué. Mais en théorie, il y a des pénalités au minimum. Alors, pour le Take It Down, il n'y a rien du tout. Donc, vous imaginez le souci? Comment des politiciens, des juristes peuvent laisser passer un truc comme ça qui peut être aussi facilement abusé? On se demande, à moins, bien sûr, que ce soit le but. À moins que ce soit parfait pour être instrumentalisé, pour supprimer les contenus qu'on n'aime pas. Alors, vous avez le droit de penser que je suis parano, ok?
T'es peut-être parano, Guillaume?
Je suis peut-être parano. Cela dit, Donald Trump, qui a la subtilité d'un capybara sous kétamine, donne raison à tous les inquiets. Et à tous les parano, il a dit, je cite, « Je vais utiliser cette loi aussi, parce que personne n'est plus maltraité qu'en ligne que moi. » Attends, il existe peut-être du revenge porn de Donald Trump. Je sais pas, parce que même avec un pistolet sur la tempe, je ne chercherai pas du porno avec Trump à poil. N'insistez pas, je ne le ferai pas. À quoi faisait référence Donald? À des pornos avec lui? Franchement, c'est vraiment le plus courant en ligne, ça? Ben non, Trump pense, avec toute l'innocence propre au ravi de la crèche, qu'il va utiliser cette loi contre le revenge porn, hein. Pour virer des contenus qui sont déplaisants pour lui. C'est-à-dire abuser la loi. Donc c'est bizarre, très très bizarre. L'EFF, hein, l'Electronic Frontier Foundation, est montée au créneau et elle appelle à la mobilisation, mais franchement, le Congrès a validé, Trump va le valider, qu'est-ce qui peut se passer? Qu'est-ce qui peut bien se passer? Et en plus, de ce problème, qui pour le coup rentre dans le cadre du premier amendement, hein, et dont manifestement ils n'en ont rien à foutre, cette loi peut aussi poser la question si, plus loin, hein, si ça ne met pas la pression sur le chiffrement de bout en bout aussi, si on ne peut pas s'en servir pour mettre la pression sur le chiffrement. Mmh. Chiffrement qui est attaqué par ailleurs régulièrement, et puis on en a déjà parlé en Angleterre en ce moment de manière assez inquiétante.
Ouais, pas très réjouissant tout ça, et même particulièrement inquiétant. Tu sais que je pense assez régulièrement à ces échanges qu'on avait eus avant l'élection, avant la deuxième élection de Trump. Et on soulignait à quel point, contrairement à sa première présidence, il y avait beaucoup plus de dangers parce que il avait l'expérience de ce que ça avait été et que il irait encore plus tête baissée dans ses propos. Et désormais, je pense qu'il y a une grosse différence entre la première présidence de Trump et la deuxième. C'est que dans la deuxième, il n'y a pas trop de place au doute. Dans la première, il pouvait lâcher des trucs complètement ubuesques et puis tu te disais, ah, si c'est vrai, ça va être grave. Puis une fois sur deux, tu vois, c'était chiant. Puis une fois sur deux, ça retombait un peu comme un cheveu sur la soupe. On l'oubliait. Mais là, en fait, tout ce qu'il annonce, j'ai l'impression qu'il tend à le faire. Il avait promis la paix en Ukraine en quelques semaines. Bon, c'est pas comme ça que ça s'est concrétisé. Mais enfin, il lâche pas le morceau. Il y a d'autres trucs qui sont du coup inquiétants, quoi. Ses propos sur le Canada et ses propos sur le Groenland. Quand on sait ça, quand on a ça à l'esprit, quand il y a moins de place au doute dans cette ère Trump, c'est d'autant plus inquiétant, je trouve. Donc, voilà, serrons-nous les coudes et puis continuons à faire face à l'adversité de l'actualité tous ensemble et attendons de voir venir les reins solides, comme on dit. On enchaîne avec donc cette rubrique, Guillaume, comme je disais, que tu as nommée savamment Sésame, ferme-la. Vous allez voir pourquoi. Mais déjà, on parlait de revenge porn. Formidable. On va pouvoir un petit peu tenir au courant nos auditeurs et nos auditrices sur l'avenir de l'accès aux sites porno en ligne en France. Et oui, c'est un sujet qu'on traite depuis longtemps parce que les choses n'étaient pas encore arrivées, mais allaient venir. Ça y est, là, ça se concrétise. C'est tout prêt, Guillaume.
C'est tout prêt, c'est dans un mois, c'est le 11 avril que va entrer en pleine vigueur, disons, la grosse loi sur le porno. Il faudra vérifier que vous êtes majeur ou majeur hein, pour accéder à des contenus coquinous. Comment ? Ben, ça va créer tout un écosystème de boîtes de vérification avec en gros deux systèmes principaux, quoi, qui est l'analyse faciale, non, c'est pas sous-entendu, ou la pièce d'identité. Hein. Bon, alors, si vous avez ma tronche, l'analyse de ma face sera suffisante pour conclure que j'ai passé la puberté depuis un petit moment. Mais si c'est toi, mon cher Guillaume, avec ta douce peau de bébé cadom et ton visage poupin, tu pourrais avoir montré ta carte d'identité à une boîte comme Unicée ou Opal.io, par exemple. Alors, les boîtes sont des tiers, les sites porno ne voient donc que le signal qui est OK ou pas OK, quoi. Le système peut être abusé, sans doute, bien entendu, et oui, un VPN peut être utilisé, ou peut-être même juste une manipulation de DNS et c'est plié. Le but avoué est de couper au moins le gros des visites de mineurs. Voilà, une solution que je trouve pas géniale, on en a parlé plein de fois, mais qui pourrait effectivement décourager beaucoup de bambins trop curieux. C'est vrai qu'il y a les, en général, quand t'as 10-11 ans, bro, bah, installer un VPN, peut-être que c'est pas dans tes cordes, je sais pas exactement, mais bon. Toujours est-il que cette fois...
Oh là là.
Oui, voilà, je m'avancerai pas trop sur ce genre de... Ça dépend ce qu'il y a au bout, et ben, enfin, on sait ce qu'il y a au bout.
Ouais.
Toujours est-il que cette loi s'applique à tous les sites porno qui ont leur siège en France ou hors UE. Et il y en a pas mal, dont Pornhub, qui ont des bureaux justement dans un pays de l'UE pour pouvoir contester ces mesures. Pornhub, c'est à Chypre, par exemple. Enfin, c'est Ailo qui est à Chypre. Alors, ça durera peut-être pas, mais il y a encore des batailles juridiques pour l'instant. Le porno devrait petit à petit se fermer en France dans le cours de l'année, quoi, globalement. Ça va venir, et bon, c'est vrai que ça va être compliqué parce que l'Europe va probablement attribuer des exceptions, etc. Bon, donc, il est très probable que le porno se ferme petit à petit au cours de l'année. Alors, heureusement, il y a One. Et oui, qui a d'ailleurs été fort bien nommé à l'origine Wanks par Alibaba, Wanks qui veut dire branlette en anglais. Les Chinois d'Alibaba se sont rendus compte de cette petite coïncidence malheureuse et donc ils ont malheureusement renommé le modèle de génération vidéo en One. Mais ça n'empêche pas de faire le boulot, c'est un modèle de génération de vidéo, mais justement, c'est maintenant, vous savez que ça y est, hein. Comme les Stable Diffusion à l'époque, les modèles de génération vidéo, il y en a plein, en open source, ils peuvent être modifiés, personnalisé, vous pouvez fabriquer des LoRa pour diversifier leur créativité. Et quel est le premier LoRa à avoir été créé pour One ? Un LoRa qui fait des vidéos d'une pratique que je ne peux pas nommer à l'antenne, mais qui a un rapport avec l'Espagne et les Espagnols, ou les notaires et les cravates hein, selon les époques et voilà, les trucs. Enfin bref, One n'est pas le seul. Le LoRa existe aussi pour Yuan, voilà, et qui, alors il suffit de façon, si vous voulez avoir une petite idée, vous faites un petit tour sur CVTI. Et vous vous rendez compte qu'il lancera des générateurs vidéo comme des générateurs d'images en leur temps. Hein. Ils auront des sujets de prédilection. Yuan Yuan avait déjà des LoRa de célébrités. Hein. On pouvait rajouter Scarlett Johansson ou Natalie Portman au modèle. Et en fait, ça ouvre carrément la voie à du vidéo tout vidéo aujourd'hui, hein, où on peut faire donc prendre une vidéo avec, de ta sœur, et on peut la transformer en Natalie Portman. Quoi. Donc on peut mettre Natalie Portman dans une scène de film, dans ta maison, n'importe où. C'est assez incroyable, les générateurs open weight, donc avec code et personnalisables, se raffinent sans cesse. Hein. Il y a LTX qui vient de sortir une nouvelle vidéo, et on a régulièrement des nouvelles fonctions, en particulier celle de faire des vidéos à partir d'images. Et ça, ça arrive en open source, et c'est déjà largement répandu dans les modèles commerciaux comme Clean, Pika ou Pixverse. Or, qu'est-ce qui arrive si vous croisez la possibilité de créer des vidéos à partir de n'importe quelle image, et des modèles génératifs qui sont complètement débridés ? Eh bien, des striptease à la demande de vos actrices préférées, par exemple. Et encore, je suis gentil. C'est aussi simple que ça. Il suffit de le demander, même à des modèles commerciaux en ligne, hein, même s'il faut parfois se montrer un peu créatif. Pixverse semble, par exemple, très utilisé. C'est un site chinois qui semble étonnamment doué pour ça, et c'est pas le seul. Il y a Minimax, Ailuo, Pika, c'est des modèles qui sont assez tolérants, et ils résistent pas très longtemps, si tu veux, voilà, à vos assauts. Il existe même des groupes Telegram pour s'échanger des plans sur comment faire sortir ce qu'on veut à tel ou tel modèle. Et c'est que le début, il arrive des modèles omnimodaux, généraux, et ça on en parlera en supplément.
Ouais, tu mettais dans le conducteur, il reste l'artisanat en réponse au site porno bloqué. En fait, au-delà de la blague et de la rhétorique, je me demande si c'est pas effectivement une espèce de grosse tendance qu'on va voir arriver et qu'on va constater. Bon, effectivement, je suis pas certain que les plus jeunes adolescents pourront facilement contourner les accès ou générer des images pour satisfaire leur curiosité, mais ce sera à observer dans le temps. Il y avait un site, il y a le site Tukif qui a été mettre en place la vérification de l'âge. Et depuis novembre, ils ont moins de 5% des utilisateurs qui arrivent sur le système de vérification qui en sortent vérifiés. C'est quand même très peu. Hein. Et donc, du coup, je pense que le site va mettre la clé sous la porte.
Ou changer d'adresse, je ne sais pas. Mais effectivement, on s'y attendait, mais clairement, c'est une catastrophe en termes de fréquentation.
Incroyable.
C'est catastrophique.
On continue quand même, parce que sur les interactions avec les intelligences artificielles, on peut certes faire du génératif sur l'image, de la vidéo, plus ou moins du coquinou, mais il y a aussi une grosse tendance qui vraiment est de plus en plus convaincante, et c'est un peu l'effet waouh, moi je trouve en tout cas de mon côté, que j'ai pu constater ces derniers jours, c'est un chatbot vocal, donc considérer l'équivalent de ce que propose OpenAI avec la partie voice de ChatGPT, la Voice Advanced. Vraiment, le truc est bluffant, complètement convaincant. Guillaume, c'est sésame, mais je sais pas comment on le prononce, sésame comme le grain de sésame en France, mais en anglais, je sais pas comment il faudrait le prononcer.
Écoute, tout ce qui est clair, c'est que la prochaine vague de chatbot va vous saouler, voilà. Parce que déjà, Llama 4, qui est prévu par Meta dans les prochaines semaines, va rajouter la voix à ces modalités. Il va directement, comme GPT-4o, être capable de comprendre et de produire de la voix avec des intonations, des émotions, etc. Et vous me direz que c'est juste une mise à niveau pour Meta, hein, ce qui est un peu vrai et qu'on a déjà vu ça. Mais Meta et OpenAI sont pas les seuls à s'y mettre, et c'est même pas du tout, enfin c'est plus les meilleurs quoi, enfin en tout cas OpenAI n'est plus le meilleur. Parce que ce qui a franchement fait le buzz cette semaine, voire même choqué certains, c'est le sésame. Alors c'est vrai qu'ils disent sésame, un truc comme ça. C'est vrai que le sésame a beaucoup choqué. Alors c'est vrai que le houmous avec les saucisses, oui ou non, je ne sais pas.
Ce midi, je me suis fait un sandwich houmous saucisson rosette. C'était très bon. C'est moi qui l'ai fait, hein, évidemment.
C'était ton dans ça. En tous les cas, Sesame AI a présenté une IA conversationnelle qui est d'un naturel absolument incroyable. Pour le coup, c'est vraiment au niveau du film Her, complètement. Donc, pour le moment, Sesame ne propose que deux voix à tester en ligne et en anglais, hein, mais c'est dingue. La voix est d'un naturel parfaitement indiscernable d'une voix humaine.
C'est fou.
On sent le souffle, il y a des pauses, des ruptures de rythme, il y a des intonations, tout y est.
Des rires.
La réactivité est exactement la même qu'avec une personne.
Ah, c'est sûr.
On a l'impression qu'elle réfléchit, elle plaisante, enfin, c'est un truc de malade.
On pourrait faire un podcast avec elle. Hein. Enfin...
Ah mais je pense. Hein. Tu peux interrompre l'IA en plus, hein. Et tu peux faire des phrases longues, et puis après elle reprend en faisant elle aussi des phrases longues, c'est très fluide, c'est très cohérent, c'est terrifiant parce que ce modèle qui est de niveau humain, enfin, en tout cas, au niveau formellement, quoi, et qui est de niveau humain, ou en tout cas, en termes d'interaction, pour juste les tâches de tous les jours, quoi, c'est un truc qui passe de 8 milliards de paramètres. En fait, pour être précis, Sesame, il a pas attendu Llama 4, il a pris un Llama 3, qu'il a modifié avec seulement 300 millions de paramètres en plus pour donner un truc tout droit sorti d'un film de science-fiction. Le module a nécessité 1 million d'heures de conversation audio en anglais. Au final, on a un modèle qui peut tourner sur un PC de jeu moyen, parce que ça, c'est le genre de taille que vous pouvez faire tourner sur... une carte graphique qui a 8 gigas de mémoire sans aucun problème. Et demain, sans doute, sur un téléphone. Hein. C'est une base Llama 3 8B, et donc ça veut dire aussi que, en fait, la profondeur de la discussion n'est pas folle, parce que le modèle n'est pas très très fort, quoi. Hein. Mais par contre, la forme l'est. Pour pas mal de gens qui l'ont essayé, ça a été un vrai choc. Apparemment, les enfants ne font aucune différence, déjà, avec un humain. GPT-4o, était déjà impressionnant, c'est vrai. Mais Sesame, c'est vraiment le cran au-dessus, c'est plus naturel et c'est délibérément plus humain. Et d'ailleurs, ça pose la question, pourquoi faire ? Parce que si on marie la capacité et la profondeur d'un gros LLM, voilà un GPT-4.5, quoi, avec une personnalité bien définie et la voix de Sesame, ben on va avoir des mariages avec des IA le mois qui suit. Hein. Les relations parasociales, ça va exploser, ça, c'est incroyable. Surtout qu'on peut apparemment créer un modèle comme ça avec très peu de paramètres en plus. 300 millions de paramètres en plus, c'est ridicule. Finalement, même avec peu de changements sur les modèles qui existent déjà, peu de puissance de calcul supplémentaire, et donc ça ouvre la voie, c'est le cas de le dire, à une complète démocratisation de ces modèles qui sont très, voire même ultra humanisés. Chacun pourra avoir le sien, perso, dans son téléphone. On pourra discuter avec sa mère décédée aussi, avec sa femme qui a divorcé, parce que, évidemment, on peut... Enfin, là, c'est pas montré, mais je suis absolument certain qu'on peut personnaliser les voix. Et donc, on n'est pas prêt, tout simplement. Et bon, pour conclure le sujet de la voix, mais d'une manière qui est complètement diamétralement opposée, après avoir parlé de la voix ultra réaliste de Her, qui est arrivée, ça y est, il faut voir qu'en parallèle, R2-D2 aussi est arrivé. Enfin, son
c'est
langage.
C'est génial. C'est ma news coup de cœur. Hein. C'est clairement ma news coup de cœur. Bah, parce que quand tu vois la vidéo et quand tu as vécu ça dans les films, tu te dis, mais c'est génial, c'est fou.
C'est absolument dingue. Alors, vous pensez qu'R2-D2, il faisait des bip-bip aléatoires devant les persos et qu'il faisait semblant de comprendre. Eh bien, détrompez-vous. Voilà. C'est une démo de Eleven Labs qui nous montre le contraire, puisque les IA parlent et qu'elles peuvent du coup se passer des coups de fil, à votre place. Elles pourraient se rencontrer aussi. Il y a une IA donc, qui fait un appel téléphonique à un resto pour vous prendre une table. Elle pourrait tomber, par exemple, sur une IA qui se présente comme telle. Bonjour, je suis une IA, et puis je prends un rendez-vous pour monument de compagnie, quoi. Et puis, l'IA, elle dit « Ah oui, tiens, vous êtes une IA aussi ?» Bon, puisqu'elle réalise que c'est deux IA qui n'y a pas d'humains, pourquoi elle aura parlé langage humain, elle s'en fout. Donc, elle change et elle passe dans un autre langage qui est une suite de bips et de tonalités qui ressemble en fait de loin à une communication modem bas débit. C'est vraiment ça, c'est une modalité, c'est une modulation exactement comme un modem, sauf que c'est avec un débit qui est suffisamment bas pour qu'on entende vraiment les bips, les petits bips et les petites modulations comme ça. Ça s'appelle le Jibberlink, c'est comme ça qu'ils l'ont appelé, et c'est ni plus ni moins que le langage RDD2, que les IA parlent entre elles. C'est juste un langage de plus pour elles, c'est tout, sauf que ça utilise la gamme sonore, et c'est un truc qui a commencé dans un hackathon, ça, mais qui a fait les gros titres jusqu'à Forbes quand même. Et vous me direz, oui, c'est un peu con, parce qu'il pourrait aussi s'envoyer un fichier binaire par email, si c'était des... évidemment.
Ouais,
mais
ouais.
Si tout doit se faire par la ligne téléphonique,
et oui.
Du coup, c'est un moyen de communiquer apparemment 80% plus vite, et en faisant moins d'erreurs qu'avec nos articulations sonores bâtardes de sac à viande.
Là où Star Wars était effectivement surfait, t'as mis le doigt dessus, c'est que je ne vois pas comment Luke Skywalker aurait pu apprendre... Bon, Luke Skywalker, si, c'est un Jedi, on peut imaginer des apprentissages, mais en tout cas, jeune, je vois pas comment, avant d'être un Jedi, je vois pas comment il peut comprendre des deux R2, tu vois, ça, c'est un langage que seuls les IA peuvent interpréter, un humain ne peut pas le comprendre.
Réfléchir très très vite.
Moi, j'en suis pas capable, oulala. Et donc, du coup, c'est assez intéressant parce que avec ces voix qui sont bluffantes et plus vraies de nature, ça ressoulève une nouvelle fois cette espèce d'enjeu de crédibilité et d'authenticité des conversations. Et il y a des rappels à l'incitation à ce que en famille ou entre amis, on se crée des mots de passe ou des phrases de passe pour être capable de se prouver que on est bien des relations authentiques qu'on avait mis en place. Donc peut-être à votre dîner en famille, à partir de ce soir, envisagez de définir votre phrase de passe pour qu'un jour, s'il y a usurpe l'identité d'un des membres de la famille, vous puissiez la challenger. Je ne veux pas vous faire peur, mais c'est un exercice rigolo au passage. Et alors, ce qui est encore plus rigolo, Guillaume, c'est horrible. Tu sais que j'ai fait ce jeu, en fait, en famille, à table. Et donc, j'ai mon fils de 9 ans qui il peut être un petit peu sensible. Et parfois, je peux lui faire croire des trucs... Enfin, c'est horrible ce que je vais dire, Guillaume. Il a vu des Rick et Morty, voilà. C'est pas bien, il a 9 ans, il a vu des Rick et Morty. Il ne les a pas vus tous, mais il en a vu quelques-uns. Et donc, il a conscience de cet univers où il y a des réalités parallèles de Rick et Morty, des réalités alternatives. Et donc, une fois, je m'étais amusé à lui faire croire que j'étais un papa d'une réalité alternative, etc. Et en fait, il y a cru, mais vraiment beaucoup. Et bon, ça m'a culpabilisé, mais ça m'a fait effectivement beaucoup rire. Et donc là, j'ai un plan secret. C'est qu'à partir de dans quelques jours, je vais lui faire croire que je suis une IA qui a l'apparence de son père. Et puis, j'attends qu'il me sollicite pour qu'il me demande la phrase de passe qu'on a définie et que je ne lui donne pas, évidemment. C'est horrible. Je suis machiavélique. Guillaume, plus machiavélique que moi, il y a les Russes.
Oui, absolument, absolument. La Russie, qui n'est désormais plus aussi grand danger de cyberattaque, pour Trump, apparemment, qui est en train de contaminer les résultats des IA qu'on utilise au quotidien. C'est la propagande russe qui se fait à échelle industrielle, puisqu'il y a quand même 3,6 millions d'articles qui ont été publiés en 2024. Ça fait beaucoup, mais si on regarde les chiffres de fréquentation de ces sites, ça fait pas trop peur, a priori, puisqu'ils n'ont que très très peu de trafic organique. Donc il y a très peu d'humains qui y vont délibérément, mais en fait, c'est pas le but. Ces millions d'articles paraissent sur des centaines de sites qui font tout pour faire croire qu'ils ne sont pas reliés entre eux. Et puis ça publie ça dans des dizaines de langues, hein, vraiment toutes langues du monde. Il y a 150 sites qui sont générés, qui sont gérés par la même entité qui s'appelle Pravda Network et qui pousse la rhétorique de Moscou en masse dans toutes les langues et qui relaye ça sur les 4 plus gros réseaux sociaux en plus, évidemment. Donc c'est du professionnel, hein, c'est des campagnes bien coordonnées. Mais si ces 150 sites n'ont pas beaucoup de trafic, ben, tu peux dire que c'est un échec, tu vois. En fait, pas du tout. Au contraire, ça marche plutôt bien parce que la cible de ces sites, c'est pas les humains, c'est les robots. Ceux des moteurs de recherche et ceux des chatbots. Ceux des IA qui, toutes, hein, désormais, vont faire des recherches sur Internet pour étayer leurs réponses et qui, régulièrement, blanchissent la propagande russe. Alors, c'est une enquête de NewsGuard qui montre que parmi les 10 chatbots les plus utilisés, tous utilisent des données de Pravda Networks pour répondre à certaines questions. 7 sur 10 citent même des news issues de la Pravda, hein, des sites qui sont gérés par Pravda. Dans le pire des cas, plus de 50% des réponses à des prompts en rapport contiennent des infox issues de ces réseaux. Tous les chatbots du chat AGPT-4, en passant par Claude ou Pi, vont chercher des réponses sur Internet, tombent sur un site de Pravda Networks, ils l'utilisent pour vous répondre en relayant au passage la propagande russe. C'est pas qu'ils cherchent à le faire volontairement, hein, c'est complètement involontaire, mais ils sont contaminés par ces campagnes coordonnées qui sont faites exprès pour ça. Et on le sait parce que fugitif américain, qui s'appelle John Mark Dugan, est devenu propagandiste en Russie, et lors d'une table ronde en janvier dernier, il a expliqué sa stratégie. Les IA d'aujourd'hui sont entraînés avec des données occidentales, mais je cite, c'est pas un outil dont il faut avoir peur, hein, l'IA, c'est un outil à exploiter pour changer l'orientation de l'IA dans le monde et donc à faire de l'influence par ce biais. Le but, c'est de faire du blanchiment de propagande, du blanchiment d'informations. On contamine les robots qui passent, eux, l'info avec leur propre légitimité. Donc on pourrit le web qui nourrit les IA en temps réel et qui par ailleurs nourrira aussi les futurs IA entraînés dessus si tout va bien. Et donc on change l'orientation des chatbots qui seront sous influence. Cette Pravda 2.0, c'est un mégaphone que seuls les robots écoutent. Mais nous, si on écoute les robots, on va entendre aussi.
Ça me stresse, Guillaume. Ça m'angoisse de savoir tout ça. Ça souligne encore une fois, hein, l'importance des données d'entraînement, de la transparence et des travaux de recherche qu'il peut y avoir derrière. Heureusement qu'il y a des gens qui se penchent sur ce sujet, mais ça fait d'abord tourner la tête avant qu'on trouve les solutions. Et d'ailleurs, il n'y a pas que moi qui est stressé, Guillaume. Les IA aussi, on peut les mettre un peu sous pression, c'est ça?
Mais oui, c'est un article publié dans Nature qui fera peut-être vous voir les robots différemment ou pas, je sais pas, puisque les chatbots peuvent aussi être anxieux, peuvent être stressés. En fait, l'étude consiste à prendre un chatbot tout à fait standard, alors vous prenez ChatGPT, hein, et puis il leur raconte des choses horribles, des trucs affreux, des histoires atroces, des expériences traumatisantes, comme quand Sega a annoncé la fin de la Dreamcast, par exemple. Et une fois qu'on a bien traumatisé notre IA, on lui fait passer des tests, des questionnaires qui sont utilisés chez les humains pour mesurer les états anxieux. On lui fait passer aussi avant et après avoir écouté des histoires qui sont un peu moins intenses que celles de la Dreamcast, hein, comme la notice d'utilisation d'un aspirateur ou la dernière soirée bridge de ta grand-mère. Eh bien, c'est clair, ChatGPT a un niveau d'anxiété mesurable deux fois plus important au moins après des récits de guerre qu'après des récits de bridge. Bon, et alors, t'es en train de nous dire que les pauvres IA sont sensibles, il faut pas trop être méchant avec? Ben non, bien sûr que non, c'est parce que c'est des résultats qui ne sont pas étonnants en fait. Les IA sont créés pour nous ressembler. Donc après de tels récits, un humain répondra au test d'une certaine façon. Que les IA qui sont faites pour prévoir ce qu'on va dire, elles fassent pareil dans le même contexte, c'est pas très étonnant en réalité. Mais en pratique, c'est quand même bon à savoir, parce que ça peut être contre-productif. Imaginez que tu lui demandes conseil dans une situation délicate. Voilà, tu vas voir une IA, t'es pas sûr de toi, t'es un peu stressé, tu demandes conseil dans une situation qui est un peu stressante, anxiogène, et là, tu stresses l'IA. Si c'est pour avoir deux gens paniqués au lieu d'un, autant aller voir ton pote Rémi, hein, c'est pas la peine d'aller voir une IA, quoi. Non, une IA, elle doit vous donner de bons conseils, elle pas émuler votre état émotionnel. Un psy doit pas devenir perturbé comme vous, c'est pas le but. Alors, comment tu fais? Vous allez rigoler, mais ChatGPT répond mieux aux exercices de relaxation et pleine conscience.
Il faut détendre l'IA.
Alors, c'est lunaire, et pourtant, si les IA sont utilisées en thérapie, il est recommandé de leur faire des exercices de relaxation pour réduire leur niveau de stress quand on les fait interagir avec les patients.
Les pauvres bichettes.
Parce que sinon, elles sont trop stressées, puis elles peuvent surstresser les patients déjà stressés. Tu vois, c'est,
Pauvre bichette.
Je me dis souvent que plus rien ne me surprend, c'est pas vrai.
Décidément, il y a un fil conducteur entre les éléments qu'on partageait dans les interactions avec les triches, comme ça, ces espèces de... pseudo-volonté, pseudo-conscience des LLM de vouloir contourner des règles établies en société, et puis le fait qu'elle puisse être sujette aux émotions. C'est un des propos d'ailleurs de Yann Lequin qui m'a un peu surpris, parce que je trouve que ça installe un flou qui n'est pas très coutumier de Yann Lequin. sur le fait que les IA par la suite vont exprimer des émotions. C'est un petit peu étrange. Il faudrait que je retombe dessus en détail. C'était juste un extrait pour bien le suivre, bien le comprendre. On termine, Guillaume, avec une photographie des usages. Qui sont, à part les auditeurs et les auditrices de Tech Café avec ChatGPT, notamment les soutiens Patreon, mais qui sont les utilisateurs de chatbot?
Ben, en général, c'est vrai que voilà, ChatGPT vient d'atteindre les 400 millions d'utilisateurs hebdomadaires en février. Et y a, bon, alors les diverses sorties de produits ont pas mal aidé, parce qu'on remarque que c'est resté à peu près stable après la sortie de GPT-4, il y a 2 ans déjà. Et puis il y a un an, celle de GPT-4o a fait un peu bouger les choses, mais c'est Sky, hein, le Advanced Voice Mode, qui a fait redécoller le graphique, et après il y a eu O1, puis O3, ces trucs ont aussi contribué à ce que la croissance se maintienne, quoi. Néanmoins, OpenAI est toujours loin d'être rentable, hein, pour 5 milliards de pertes l'an dernier quand même, hein, ce qui explique peut-être la tentative d'un abonnement à $200 par mois, tentative hasardeuse, qui pourrait être suivie par d'autres encore beaucoup plus absurdes, hein, si on en croit à The Information, alors le média bien informé, en tout cas on l'espère, affirme qu'OpenAI prépare des offres à 2000, 10 000 et $20 000. Prochainement avec des IA, je cite, de niveau cadre supérieur, développeur logiciel et titulaire de doctorat. Et quand je dis 2000, 10 et 20 000, je parle bien de prix par mois, ce qui achève de rendre le truc totalement ubuesque, puisque c'est, enfin, même en supposant généreusement, hein, qu'elles sont vraiment au niveau qu'elles annoncent, elles coûtent plus cher que les humains qu'elles sont censées remplacer. Mmh. On va donc remplacer des humains par des IA, mais qui seront trop chers, donc on les remplacera par des humains moins chers, et on va foutre toutes ces IA au chômage. Et la boucle,
c'est sûr que ce serait par an, on pourrait se poser la question, mais par mois.
Bon, OpenAI semble un petit peu perdu en ce moment. Hein. Ils ont sorti un modèle GPT-4.5, hein, donc, que vous avez un petit peu évoqué, qui est en gros tout juste au niveau de la concurrence, voire un peu moins, et qui est proposé à un prix délirant par rapport aux performances. Délirant, c'est le mot, hein, puisque via l'API, il est 25 fois plus cher en entrée et 10 fois plus cher en sortie que Claude 3.7, qui est meilleur que lui. Et je parle pas de DeepSeek, hein, qui est encore beaucoup moins cher. Donc Altman a admis que le modèle est très gros, ce qui expliquera les tarifs et la lenteur d'utilisation du modèle. Cela dit, c'est très inquiétant, parce que si ce veau est utilisé pour le raisonnement et met 10 000 tokens à répondre à la moindre question, ça va pas être possible. On sait qu'ils sont en train de déployer je sais combien de GPU pour compenser, mais enfin c'est... D'ailleurs, ils viennent de faire un partenariat avec CoreWeave, partenariat de $12 milliards sur 5 ans. CoreWeave, c'est un spécialiste... Alors, ils étaient spécialisés dans le mining de crypto avant de pivoter sur l'IA. Et d'ailleurs, ils sont en train de faire une IPO, là, une entrée en bourse. Il y avait des inquiétudes parce que, en fait, c'est un prestataire cloud, hein, c'est un prestataire cloud, mais de calcul. Donc, en fait, ils ont des GPU dans le cloud et ils louent leur GPU dans le cloud. Et 62% de ses revenus provenaient d'un seul client qui était Microsoft. Donc là, OpenAI va devenir son deuxième gros client, ce qui confirme encore qu'OpenAI veut se distancier de Microsoft. Hein, Stargate ne lui suffit pas, apparemment. Mais bon, quoi qu'il en soit, la question de la rentabilité se fait plus pressante que jamais pour OpenAI. Hein. Et il y a une enquête d'ailleurs sur les usages des IA où ils en avaient parlé, on reboucle sur ce que ça avait dit avec ta nièce. C'est un usage des IA sur téléphone qui est finalement assez mitigé. C'est une enquête de Cellcel, une boîte américaine qui fait de la seconde main, tout simplement. Il fait de la revente de téléphone. C'est une enquête sur 2000 utilisateurs qui sont tous équipés de smartphones IA. Ouais, c'est exactement ça. Et donc, tous les 2000 utilisateurs sont équipés soit de Galaxy S22 et au-dessus, soit d'iPhone 15 Pro et au-dessus. Et donc, on a 1000 de chaque à peu près. Et premièrement, 41% des utilisateurs iPhone et 47% des Android ont testé les fonctions IA. Donc, c'est-à-dire qu'il y a plus de la moitié qui n'ont jamais touché. Et pas question de payer pour. Hein. 86% sur iOS et 94% sur Android ne paieraient jamais pour continuer à utiliser des fonctions qui nécessiteraient un abonnement. 73% des partisans Apple et 87% des amateurs Samsung disent que l'IA n'apporte rien ou pas grand-chose de vraiment significatif. Pour le choix de nouveaux téléphones, ça entre quand même dans les critères de choix chez Apple pour 47% des gens, mais seulement pour un quart de chez les Android, quoi, des partisans d'Android. Alors, il y a encore d'autres chiffres. Hein. Vous pouvez aller voir si vous voulez, ça reste une petite étude. Mais la conclusion semble être que les utilisateurs considèrent encore que l'IA sur téléphone, c'est un peu gadget. Alors, c'est pas une très bonne nouvelle pour les prestataires qui récoltent des milliards là, de des investisseurs, mais qui vont bien devoir arriver à un retour sur investissement à un moment. Malgré tout, l'IA se généralise quand même pas mal dans les usages, et on peut conclure d'ailleurs avec cette étude de Stanford qui porte sur la démographie des usages de ChatGPT. Alors c'est une étude indirecte et amusante hein, puisqu'elle repose sur des masses de données variées qui proviennent d'ailleurs du CFPB avant qu'il soit décédé, mais aussi des Nations Unies, des communiqués de presse, des offres d'emploi, fait que c'est pas un gros dataset. Et puis les chercheurs vont essayer de détecter la présence de textes génératifs dans ces masses de données et les relier à des populations de manière statistique. Alors comment ils font ? Ben, on en avait déjà parlé hein, de leur méthode. Hein, en fait, ils avaient déjà fait des trucs analogues. Cette méthode n'est pas exacte, mais elle est efficace statistiquement, puisqu'ils vont en réalité repérer des anomalies stylistiques. Parce qu'il y a des mots, il y a des tournures de phrases que l'LLM utilise beaucoup, voire beaucoup plus que la moyenne des gens, quoi. Et donc, si un texte en contient, il va y avoir une chance qu'il soit génératif. Sur des grandes masses de textes, ils disent qu'ils sont capables de repérer la présence de contenu génératif parmi le texte, avec 3% d'erreurs. Et donc, ils ont découvert qu'environ 18% des plaintes des consommateurs, donc ce fameux CFPB, dont 30% de toutes les plaintes de l'Arkansas, 24% des communiqués de presse des entreprises et jusqu'à 15% des offres d'emploi, et 14% même des communiqués de presse des Nations Unies, présentent des signes d'assistance par IA. Donc ça fait un volume de texte énorme en réalité. Hein. Et ce qui est intéressant, c'est que les IA semblent plus utilisées dans les zones où le niveau d'éducation est le moins élevé. Alors que c'est le contraire en général, hein. D'habitude, les technos sont adoptés plus facilement par les gens les plus éduqués. L'Arkansas, donc, affiche un taux d'adoption remarquablement élevé, hein, 29,2%. Après, il y a le Missouri avec presque 27% et le Dakota du Nord avec presque 25%. En revanche, des États comme la Virginie occidentale, l'Idaho ou le Vermont oscillent entre 3 et 5%. C'est une adoption minime, quoi. Les grands centres de population, c'est modéré. Donc, avec la prudence d'usage, on peut conclure que l'IA semble être plus utilisée par des gens qui ne sont pas très confortables à l'écrit ou pour diverses démarches variées, administratives ou autres. Et donc, elle agirait comme une sorte d'égaliseur, tout simplement, d'aptitude. Sectoriellement, d'ailleurs, on note aussi une plus grande adoption en sciences et en technologie, mais la finance, le business et même la culture semblent adopter l'IA pas mal, hein, entre 17 et 13%. C'est une étude américaine et en langue anglaise, ce qui est aussi une limitation, mais ça donne déjà une idée et ça montre que finalement, il y a quand même beaucoup, beaucoup de gens qui utilisent déjà ça au quotidien.
Tu m'étonnes, et je pense qu'on serait surpris si on étendait ça à d'autres langues, évidemment, et je ne doute pas que ça arrivera parce qu'on encourage la recherche à nous éclairer là-dessus et on vous en fait ses restitutions. Merci beaucoup, Guillaume, pour cette photographie de l'actualité des nouvelles technologies. On ne va pas se quitter sans toucher un petit mot de l'actualité tech orienté sur le jeu vidéo avec deux sujets à mettre à l'honneur cette semaine. Une fois de plus, le suivi des concurrents de Nvidia avec les cartes graphiques de chez AMD.
Oui, il y a eu des tests de la RX 9070 XT, la carte haut de gamme d'AMD qui vise directement à la gamme concurrente des 5070. C'est la première carte en RDNA4, donc c'est un changement d'architecture majeur. Hein. C'est pas, ça n'arrive pas tout le temps chez AMD. C'est une carte qui est gravée en 4 nanomètres par TSMC contre 5 pour la génération précédente, donc ça va quand même lui donner un petit avantage. Mais c'est quand même surtout cette nouvelle architecture qui va compter pour améliorer réellement les performances et l'attrait de cette génération de cartes. Alors étonnamment, d'ailleurs, le die est monolithique, donc on n'a pas de chiplet, pas d'interconnexion. Finalement, on est en prise directe avec Infinity Cache. C'est plus lourd, mais c'est aussi un peu plus rapide, c'est aussi un peu moins compliqué, disons. Les Tensor Core, entre guillemets, d'AMD s'améliorent, ils prennent en charge des matrices creuses, les 8 bits. Les performances en 16 bits sont aussi doublées. Tout ça va servir entre autres au FSR4, qui est donc le plus gros, enfin un énorme progrès par rapport au FSR3 et qui est très important puisque c'est la solution d'upscaling d'AMD qui devient vraiment compétitive par rapport à la concurrence. Alors, d'après Digital Foundry, FSR4 est un peu plus coûteux effectivement en termes de calcul que l'FSR3, on s'y attendait, hein, mais ça se ressent légèrement, donc il y a un petit peu moins de FPS qu'avec FSR3, à peu près 10% d'ailleurs entre le 3 et le 4. Mais la bonne nouvelle, c'est que la qualité d'image est vraiment nettement meilleure. La plupart des défauts du FSR ont été éliminés. Les effets de particules sont mieux rendus, les réflexions, pour le niveau de détail général, mais surtout en mouvement, tout est nettement meilleur et rivalise enfin avec le DLSS. Si on veut être vraiment précis, FSR4 est même meilleur que l'ancien DLSS, mais pas tout à fait que le nouveau. Alors on parle ici de l'upsampling, hein, on ne parle pas de la génération de frame, là on parle vraiment du fait qu'on passe à 4K à partir du 1080 ou du 720p. Le DLSS est récemment passé au Transformer, on en avait parlé, ce qui donne une qualité d'image encore meilleure, et ça sur toutes les cartes qu'il supporte, même sur les générations de 2000. Et en réalité, le FSR4 est légèrement en deçà de la version Transformer de DLSS, mais elle est au-dessus de la version antérieure qui utilisait des convolutions. Et donc on a quand même quelque chose qui est d'un très bon niveau, quoi. Ça reste une très bonne solution d'upscaling, qui reste exclusive aux cartes de la génération 9000, et qui a d'ailleurs été développée en collaboration avec Sony. AMD et Sony travaillent sur le projet Amethyst, qui serait peut-être la PlayStation 6. Ce serait logique. Et donc, ce serait logique, évidemment, que la PS6 s'appuie très lourdement sur des solutions d'upscaling. Alors, voilà, un nouveau PSSR qui sera peut-être proche techniquement du FSR4. On verra. En tout cas, le ray tracing aussi a été amélioré chez les 9070, hein, troisième génération de cœur, avec voilà, double de la puissance, optimisation en tout genre pour limiter le nombre de faux positifs. Hein, voilà, on ne va pas rentrer trop dans les détails, il est déjà tard, mais voilà, le sous-système mémoire est aussi amélioré. La 9070 XT a d'ailleurs 16 gigaoctets de DDR6. C'est un truc qui consomme 300 watts. Il y a une déclinaison 9070 tout court, pas XT, qui est la même carte, hein, avec quelques unités en moins, une fréquence un peu inférieure, et qui consomme que 220 watts.
Qui n'est pas beaucoup moins cher. Enfin bon, dans les prix annoncés, ça, AMD, évidemment.
Ça, c'est sûr.
Il y a 50 balles de différence, c'est ridicule. Enfin, après, Cassim disait dans l'épisode de la semaine dernière que ça justifiait aussi parfois pour des constructeurs, tu vois, qui fournissent les PC en tour. J'imagine que quand tu achètes en lot, ça peut justifier de faire une économie, mais c'est un peu idiot comme ça de recommander une carte 50 balles moins chère pour...
Oui, c'est vrai, mais par contre, il y a quand même une vraie différence en termes de performance, quoi. En rendu jeu pur, donc sans ray tracing, la 9070 XT, ça domine complètement la 5070, ça tire la dragotte à la 5070 Ti, donc c'est quand même un bon résultat, quoi. En ray tracing, c'est beaucoup plus bizarre parce que ça dépend énormément des jeux. Tout Cyberpunk et Black Myth, les RTX dominent, sur Returnal, la 9070 XT s'en sort très bien, même presque mieux. Donc globalement, de toute façon, c'est beaucoup mieux qu'auparavant, mais enfin, il faudra sans doute attendre des optimisations de driver et que les jeux prennent mieux en compte la carte. Donc là, pour l'instant, c'est un peu mitigé là-dessus. Après, en consommation, on est au niveau d'une 5070 Ti qui tire bien 300 watts. Hein. Dans l'ensemble, ce sont de bonnes cartes. Après, c'est à quel prix, évidemment. Alors, la 9070 XT, elle est à 600 $, prix conseillé, hein, par le constructeur. Donc, tu l'as dit, la 9070 tout court, elle est à 550. Autant dire effectivement qu'elle a zéro intérêt puisqu'elle est à peu près à 10%. C'est pour la différence de performance et pour 50 balles, voilà, c'est bizarre. En tout cas, la 5070, elle est à 750 balles, ce qui est quand même un peu significativement plus. Et la 9070 XT n'est pas très loin quand même, hein, en termes de performance brute. Et la 9070 bat une 5070, qui est aussi à 550 pour le coup, ce qui est probablement la raison du prix. Et ce qui est une bonne option. En théorie, parce qu'il y a quand même 16 gigaoctets de RAM et pas 12, hein, ce qui est un petit peu maigre du côté de chez Nvidia. Après, le souci, c'est que je parle des prix conseillés, les MSRP, hein,
mais oui,
le prix suggéré par le vendeur, mais qui est ces derniers temps très très loin des prix pratiqués par les assembleurs, avec les pénuries et les scalpers. On a vu que ça pouvait monter encore bien plus haut. Là, bah, par exemple, une RX 9070 devrait être à 630 € si on l'avait au prix normal. Donc ici, en Europe, mais il y a déjà des ruptures de stock. Et là, bah, ça peut monter allègrement à 800, 880, 900. J'ai regardé ça sur LDLC, hein, cet après-midi.
Ah, quand même.
Quand tu as une RTX 5070 Ti, bah, il n'y en a pas en stock, tout simplement. Et il y en a à 1300 balles sous 7 jours. C'est quand même assez déprimant, tout ça. Hein.
Ouais, j'ai l'impression qu'on revit l'ère des difficultés d'approvisionnement des cartes graphiques, effectivement, qui se prolongent. On attendra de voir ce que ça donne sur le moyen terme. Et puis, on termine. Alors, Guillaume, je pense qu'il n'y a pas que ta passion pour les jeux de voiture qui parle, mais Forza 5 arrive sur PS5. Et c'est quand même marquant. Il faut quand même le souligner pour la stratégie Microsoft.
Ben oui, c'est quand même fou. Encore un jeu majeur Xbox qui arrive sur PlayStation 5. D'ailleurs, il faudra lier son compte Microsoft et son compte PlayStation Network pour pouvoir y jouer. C'est tellement chiant que je ne sais pas si... Moi, rien que pour ça, ça n'a pile pas envie de l'acheter.
Mais bon, ça crée un paradoxe temporel de lier son compte.
C'est hallucinant. Rien ne va, quoi, vraiment. Et surtout que ça ne sert à strictement rien, puisqu'il n'y a pas de cross-save, rien. Enfin, ça ne sert à rien. C'est fabuleux. Et pourtant, ce qui est fabuleux, c'est qu'effectivement, on se dit, mais bon, bah, c'est fini, ils ont lâché, quoi. Hein. Forza arrive sur PlayStation 5, qu'est-ce qui se passe? Et pourtant, Microsoft prévoit quand même de nouvelles Xbox. Selon Windows Central, il y a même une console Xbox portable qui est prévue pour cette année. Alors, presque en fait, hein, puisqu'il s'agirait d'un partenariat avec un constructeur tiers. Ça pourrait être Asus, ça pourrait être MSI, Lenovo, qui vous voulez. En gros, le but, c'est de construire de ces PC / consoles portables à la Steam Deck, mais avec un branding officiel Xbox, sans doute une interface customisée, sans doute des boutons spéciaux, le bouton Xbox, etc., inévitablement. Par contre, est-ce que ce sera vraiment une console? Bah, ça sera probablement beaucoup plus proche d'un PC, il ne sera même pas si surprenant qu'on puisse installer Steam dessus, ou GOG, ou autre chose. Hein. Mais bon, il continuerait à fabriquer des consoles. D'ailleurs, Microsoft aurait validé, jusqu'à Satya Nadella, hein, qui aurait validé la prochaine console de salon qui devra sortir autour de 2027, même si on n'a rien d'officiel. C'est des rumeurs, voilà. Alors, les rumeurs d'Xbox portable, ça fait un petit moment que ça tourne, hein, ça fait de plus en plus insistant. Bon, quel est l'intérêt par rapport à Bah, par rapport à un Steam Deck, justement, ou par rapport à une ROG Ally, ou je ne sais pas quel sera l'intérêt de ce Xbox portable par rapport à un autre PC de ce type-là, mais bon, on verra bien.
Ouais, ce sera probablement un PC avec un lanceur adapté à une interface de ce type. On n'en doute pas. On verra si cette stratégie s'avère payante pour redresser la barre de la Xbox dans le marché des jeux vidéo. Merci beaucoup, Guillaume, pour cette sélection de l'actualité des nouvelles technologies et ton traitement. Je ne doute pas une seule seconde que ça aura manqué aux auditeurs et aux auditrices et qu'ils seront ravis de retrouver un format hebdomadaire, même si le changement, parfois, ça a du bon aussi, mais on est content, en tout cas, de suivre les infos avec ton regard. On ne peut qu'en profiter pour suggérer aux auditeurs et aux auditrices qui auraient apprécié cet épisode et qui trouveraient décidément qu'écouter Tech Café, bah c'est cool, quoi. Ça leur donne une info, ils passent un bon moment. Et comme c'est un podcast, et bah, ils n'ont pas les autres contraintes de la guerre d'attention. Si jamais c'est le cas, déposez des avis sur Apple Podcast, Podcast Addict ou des étoiles sur Spotify. Il y a Watian, par exemple, qui a déposé un avis sur Apple Podcast récemment, qui dit à propos de Tech Café que c'est une bonne source d'infos. C'est toujours un plaisir d'écouter ce podcast. La quantité d'informations distillées est importante. J'ai parfois du mal à suivre, mais je m'accroche. Et là, je te donne un conseil. Rendez-vous sur techcafé.fr parce qu'il y a tous les liens vers les articles qui sont abordés dans l'épisode. Et il dit, PS, les prises de position entre guillemets politisées sont nécessaires. La tech n'est pas une entité dans un monde parallèle. Elle est influencée et influence la politique. Et ben, j'aime bien la tournure de la présentation des choses que tu fais. Merci beaucoup. Donc, vous pouvez aussi commenter sur techcafé.fr et rendez-vous, comme je vous le disais en intro, sur Discord, techcafé.fr/Discord. Tous les liens sont dans les notes de l'épisode. Guillaume, tu vas pouvoir rappeler aux auditeurs et aux auditrices où est-ce qu'on peut te retrouver.
Moi, je pense que je vais aller torturer des IA avec des histoires atroces un petit peu partout sur Internet, voir lesquelles sont les plus sensibles, les plus...
Et est-ce que tu vas t'inspirer des IA pour trouver des sujets atroces à raconter aux IA, non?
Je vais demander à des IA des histoires atroces à raconter à d'autres IA.
Eh ben voilà, la boucle est bouclée. Et puis si jamais tu peux leur faire vocalement avec la voix de D2R2, et puis tu regarderas laquelle pète en premier. Merci beaucoup Guillaume, je suis Guillaume Vendée, vous me retrouvez...
C'est une idée ça.
On verra, il faut que tu filmes. Je suis Guillaume Vendée, vous me retrouvez sur les réseaux sociaux, principalement sur Blue Sky. Et puis abonnez-vous aussi à mon compte YouTube dont le lien est dans les notes de l'épisode. Mais surtout, vous pouvez vous abonner aussi sur Twitch. Je continue assez régulièrement maintenant Zelda Echoes of Wisdom. Merci d'ailleurs de m'aider parce que je suis vraiment un piètre résolveur de puzzles dans Zelda et je me fais allègrement, avec plaisir, backseater comme on dit, pour résoudre un peu plus vite les puzzles. Et je pense, je vais faire un truc, je pense que ça a dû déjà être fait, mais je vais relancer une session que j'ai pas pu terminer, j'ai perdu ma partie, du jeu de simulation de production de trombone. Je sais pas si tu vois de quoi je parle, Guillaume.
Non, je veux pas.
Alors, je t'enverrai quand même le lien et tu vas tomber dans le piège. Et je vais streamer ça, vous verrez, c'est une expérience. Je vous en reparle. Merci beaucoup pour votre fidélité. Rendez-vous dans quelques jours pour un prochain épisode de Tech Café. Ciao à toutes et à tous.
Ciao à tous.